Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Alors Anthony, vous avez apporté sur le plateau une sorte de seau avec à l'intérieur une sorte de, je dirais, de terre mouillée,
de bouillasse,
des tuyaux partout, et ça, ce serait censé être un super purificateur d'eau,
ouais,
c'est ça?
C'est révolutionnaire, là, ce que j'ai apporté. Non, vous n'êtes pas prête à boire de l'eau boueuse. Bah, en fait, c'est ça, en fait, l'intérêt. Parce que purificateur d'eau, vous allez peut-être vous dire, oui, j'en ai un dans ma cuisine pour filtrer l'eau du robinet. Non, non, là, on est
les
dans
les carafes Brita.
Les carafes Brita, exactement. Bah, imaginez, c'est un peu la même chose, mais puissance 1000. Parce que là, avec ça, vous allez pouvoir boire directement l'eau de n'importe quelle rivière, de n'importe quel étang, de n'importe quelle flaque d'eau boueuse.
Pourquoi
sans aucun problème? Bah, parce que, je sais pas, si vous faites du camping sauvage, si vous êtes, et puis il y a plein de pays, si vous voulez, où l'accès à l'eau potable, vous l'aurez,
bien
ça
sûr,
ne vous aura
sûr
pas échappé, est un peu compliqué.
Mais vous avez raison, très
et
bien.
Donc là, alors c'est une innovation française, hein, je le précise, ça s'appelle l'Orisa. Donc je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. C'est une grosse boîte, ça fait 40 cm de haut. Ça pèse à peu près 2 kilos, donc c'est assez facile. Il y a une pompe à la surface, et en fait, là, j'ai donc apporté un seau avec de l'eau que j'ai mélangé avec de la terre, donc ça va, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas très, très propre. Et donc, simplement, bah, je vais pomper légèrement, et voilà. Et de l'autre côté, ce qui sort dans le verre, bah, c'est de l'eau qui est complètement propre, qui est complètement transparente, complètement
c'est
claire.
C'est parce que vous pompez l'eau de la terre?
Oui, exactement. Et bah, c'est ça, en fait. Alors,
allez-y,
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
Mais vous la buvez en plus.
Bah oui, bah
évidemment, évidemment. Et en fait, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet appareil? À l'intérieur, il y a ça, il y a un filtre, mais alors un filtre de compète. Un filtre
mieux, ouais,
avec des pores de 0,01 micron. C'est-à-dire que ça ne va absolument rien laisser passer. Ni les particules, ni les bactéries, ni même les virus. Donc des tout petits éléments. Donc que ce soit du choléra, des hépatites, tout ça va être filtré en fait. Bah oui, parce qu'il y a ça des fois dans
et
les...
Il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un trou dans le filtre. Hein.
Non, alors vaut mieux pas qu'il y ait un trou dans le filtre. Faut changer le filtre régulièrement.
Ouais,
ça, c'est vrai.
Tous les jours.
Non, faut faire attention où on le jette aussi.
Faut faire attention
où on le jette le filtre.
Oui, faut faire attention où on le jette aussi. Voilà,
pas le laisser sur la table du salon.
Non, c'est un petit peu encombrant, effectivement. Non, mais vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que là, vous allez l'utiliser. C'est utilisé dans des pays, au Brésil, en Colombie, ils en ont déployé. Ils en ont déployé à Mayotte aussi quand il y a eu les restrictions d'eau. Donc, vous voyez, le potentiel est absolument extraordinaire. C'est fabriqué en Vendée, c'est une
génial
entreprise qui s'appelle Fonto de Vivo,
formidable,
donc la fontaine de vie qui a créé cet appareil. Voilà.
Et est-ce qu'on peut déjà l'acheter?
Alors, on peut déjà l'acheter. Ça coûte 250 euros, donc c'est un investissement, hein, évidemment. Ça peut être intéressant, bah, y compris pour les particuliers, ceux qui font du camping, bon, qui aiment bien être dans des campings un peu en mode sauvage.
Si
on a un puits.
Exactement, t'as raison. Si on a un puits, c'est intéressant. Et puis, il y a des gens qui s'équipent, tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment, enfin, ces derniers étés avec les canicules, on a eu de plus en plus de restrictions d'eau. Il y a des communes qui ont été privées d'eau, concrètement. Mmh. Et donc les gens achètent ça un peu comme on achète un extincteur pour les incendies, c'est-à-dire qu'en cas de pénurie, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas prendre ta pompe et tu vas aller dans un cours d'eau pour pouvoir avoir de l'eau potable, plutôt que d'être soumis
à
une
restriction.
C'est en mode un
c'est
peu survivaliste.
Hein,
oui, mais enfin, c'est des choses qui sont pas complètement
délirantes. C'est le jour d'après, quoi.
C'est un peu le jour d'après. Ouais, je pense qu'il y avait aussi les survivalistes qui doivent s'équiper de ce genre de truc. Mais enfin, alors il y a le modèle plus petit. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Livestro. Ils le font en mode paille. Donc c'est carrément une paille avec des filtres. Alors c'est un tout petit peu moins puissant que ça, mais c'est pas mal quand même. Et tu le mets dans un cours d'eau et tu t'aspires comme si c'était un verre de soda, quoi.
Non, je ne ferai pas ça.
Ah, mais c'est incroyable.
Vous avez me parlé également d'un autre appareil étonnant, c'est une fontaine à eau qui se remplit toute seule.
Ouais, absolument. Alors ça, c'est un autre appareil que j'ai rencontré sur un grand salon technologique qui s'appelle le Watercube. C'est un truc qu'on pourrait avoir à la maison. C'est une grosse boîte, en fait, un gros cube noir qui peut produire de l'eau potable à partir de l'air que l'on respire. Hein, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette boîte, ben, en fait, tu vas récupérer la vapeur d'eau qui se trouve dans l'air tout autour de nous. On le voit bien quand on génère de la buée par temps froid. On fait passer ça dans un échangeur thermique et avec la condensation, on va récupérer toutes ces gouttelettes et on va pouvoir. Mais pourquoi ça vous dégoûte? C'est de l'eau.
C'est l'haleine des gens, mais ça me dégoûte.
Dis-lui, Thierry, franchement,
non,
mais oui, on peut produire comme ça 400 litres d'eau potable par jour. C'est énorme.
C'est pas mal.
C'est quand même pas mal. Donc voilà, on pourrait avoir ça aussi à la maison.
C'est combien?
D'ici quelques années. Alors ça, c'est un appareil qui coûte cher. Là, pour le coup, c'est plusieurs milliers d'euros.
Ah oui.
Ouais, absolument. Bah, là, oui. Mais bon, on est au début de ces technologies, hein, ça va se démocratiser dans
les années. Non, mais merci pour toutes ces innovations.
Moi, je serais quand même assez curieuse de savoir combien de litres d'eau et de milliers de litres d'eau il faut pour fabriquer ces machines à l'origine, parce que ce qu'il y a un moment.
Ah, c'est bah oui, mais vu comme ça, non. On fait jamais rien. Non,
c'est bien, là, ce qu'on propose.
Ça peut être un peu absurde si à un moment on a consommé beaucoup plus d'eau pour fabriquer une machine qui nous permettra d'en récupérer un peu.
Bah non,
je ne pense pas dans certains pays.
Pour le filtre, je parle de l'autre.
Ah oui, d'accord, parce que celle-ci,
ça mérite une analyse de cycle de vie quand même.
Zéro électricité, zéro produit chimique quand même là-dedans. Non, donc c'est vraiment. Alors là, premier, tu peux pas faire plus artisanal.
Le filtre, pourquoi pas. Mais l'autre, c'est vrai que je sais pas si on récupère autant d'eau qu'on en a consommé pour le fabriquer.
Bon.
Ceci, mais oh.
On parle de quoi demain, Anthony ?
Demain, on va parler de la justice du futur. Est-ce qu'on aura une justice artificielle en Chine ? Ils sont en train de tester des procureurs.
En Chine ?
Procureurs.
Ah bah écoutez, oui.
Ouais, bah alors je sais pas. Il y a pas que la Chine, hein. Y a d'autres pays. Mais il y a pas mal d'expérimentations de juges et de procureurs artificiels.
Eh ben génial. Merci beaucoup, Anthony Morel. On vous retrouve demain à 12h50 dans Estelle Midi. Et puis en podcast, évidemment, à toute heure du jour et de la nuit, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on va parler du nouveau Front Populaire qui souhaite rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune. D'accord, pas d'accord, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
Les Grandes Gueules, ils abordent vraiment tous les sujets, et même des sujets qu'ils n'ont pas abordés sur d'autres radios ou dans d'autres médias. C'est une façon de débattre qui n'est vraiment pas habituelle.
Pendant 3 heures, des Français avec des très grandes gueules débattent autour d'Alain Marchal et Olivier Truchot, sans langue de bois.
Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, 9h midi sur RMC.
Julien est un électricien sympa qui, dans son métier, fait des étincelles. Ce n'est pas parce qu'il est sur un fil en termes de budget qu'il ne voit pas grand pour son fourgon. Alors fini les prises de tête. Fiat Ducato, Easy Pro suréquipé, une disponibilité immédiate, un prix unique de 24 900 euros hors taxe et une garantie de 160 000 km ou 4 ans.
Si vous avez besoin aujourd'hui d'un fourgon, Fiat Professionnel est la solution. Prix remisé pour Fiat Ducato Easy Pro, valable professionnel dans le réseau participant jusqu'au 30 juin. Détails sur fiatprofessionnel.fr.
Fiat Professionnel, professionnel comme vous.
Dimanche 30 juin, c'est le Grand Prix de Saint-Cloud avec RMC. L'élite du galop français se donne rendez-vous à l'Hippodrome de Saint-Cloud pour une compétition exceptionnelle. Participez au déjeuner sur l'herbe et au concours de peinture et profitez du spectacle. Plus d'infos sur francegalop-live.com. Le Grand Prix de Saint-Cloud, c'est le dimanche 30 juin avec RMC. Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
J'ai toujours aimé les balades en forêt avec mes enfants et mes petits-enfants. Alors avec PFG, j'ai pu prévoir dans mon contrat obsèque que le moment venu, mes cendres soient dispersées en pleine nature dans cette forêt à laquelle je tiens tant.
Jusqu'au 31 juillet, chez PFG, 200 euros vous sont offerts en souscrivant un contrat prévoyance. PFG, célébrer une vie. Conditions et rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 900 agences pour un devis personnalisé, intermédiaire immatriculé à l'ORIAS.
La Fédération Française de Cyclisme vous donne rendez-vous de jeudi à dimanche au Championnat de France de cyclisme sur route. Avec RMC, sur un circuit sillonnant la baie du Mont-Saint-Michel, qui succédera à Valentin Madouas et Victoire Berthaud pour la conquête du maillot bleu-blanc-rouge. Les championnats de France de cyclisme sur route à Saint-Martin-de-Landelle, de jeudi à dimanche, avec RMC.
Gamme professionnelle Citroën, 100 ans de passion avec les pros.
Mon Citroën Berlingot, qu'il est pro, qu'il est beau, avec son nouveau design et ses sièges Advanced Comfort, je me sens bien avec lui.
Nouveau Citroën Berlingo Van, tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 199 euros hors taxes par mois, existe aussi en version électrique.
Électrique.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 5 365 euros hors taxes, offre professionnelle jusqu'au 30 juin, si acceptation crédit part, maintenance avec garantie assistance 5 ans incluse, détails sur citroën.fr.
La 15e édition des trophées PME-RMC.
Bonjour, c'est Jean-François Auffort sur RMC. Je suis président fondateur de Fil Rouge. Fil Rouge est une usine de confection industrielle de vêtements français. Implantée à Marseille, l'entreprise s'inscrit dans une démarche locale et made in France, et conçoit avec des matières éco-responsables. En 2023, Fil Rouge a remporté le prix de la PME fabriquée en France, et une campagne campagne publicitaire de 100 000 euros sur RMC. Gagner a fait accroître notre notoriété.
Inscrivez votre PME sur trophée-pme-rmc.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Petit conseil à tous les parents qui nous écoutent.
Oui.
Toujours vérifier qu'il reste des couches avant de changer bébé. Parce que là, je me suis laissée surprendre et... Chérie, va vite chercher des couches.
Aïe, passez vite chez Leclerc et obtenez 50% de tickets Leclerc des deux produits Pampers achetés du 18 au 29 juin.
À toi, ça te fait rigoler, hein.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre disponible sur les changes bébés et les lingettes Pampers. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
RMC.
Le défi hippique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le défi hippique avec aujourd'hui un Quintet Plus qui est programmé à 14h05 sur l'hippodrome de Nantes avec 16 galopeurs qui s'affronteront sur la distance de 1600 mètres. Et pour ce défi hippique, j'accueille au 32-16 notre parieur Marc-Antoine. Salut Marc-Antoine, comment vas-tu et quel est ton favori dans ce quintet?
Bonjour à tous, moi mon favori ce sera le 6 Antares, pour plusieurs raisons, deux parcours dans les jambes, très bien placé dans les stades et surtout adepte des terrains un peu difficiles, je le vois à l'arrivée.
C'est noté, merci beaucoup Marc-Antoine. Ma dernière minute dans ce Quintet Plus, ça sera le numéro 15 Zaizoun, c'est un concurrent qui est en grande forme, il reste sûr de succès, il est performant également sur l'hippodrome de Nantes, il peut donc s'illustrer. Je rappelle la règle Marc-Antoine, si ton numéro 6 Antares termine devant le numéro 15 Zaizoun, tu seras de nouveau avec nous demain, je vous souhaite bonne chance et un bon quintet.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler du nouveau Front Populaire qui souhaite rétablir l'ISF. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. RMC, il est 13h02. Les infos, tout de suite avec Jamila Zegoudi.
Le président de la Fédération Française de Football donne des nouvelles de Kylian Mbappé. Philippe Diallo vient de tenir une conférence de presse depuis le camp de base des Bleus à Paderborn, en Allemagne.
Les nouvelles étaient plutôt rassurantes, dans la mesure où il n'y a pas d'opération, en tout cas à court terme, qui est prévue. Maintenant, concernant sa participation au reste du tournoi, il est un peu prématuré pour donner un calendrier. Nous allons attendre les dernières infos du médecin ce matin pour voir un peu comment évolue. Mais je dirais que, encore une fois, les informations étaient plutôt positives.
Kylian Mbappé qui s'est donc cassé le nez hier soir face à l'Autriche. Le président de la Fédération Française de Football qui le redit, il garantit aux joueurs la liberté d'expression tout en veillant à la neutralité de la FFF qui, elle, ne prend pas parti en politique. Philippe Diallo qui l'assure en tant qu'institution fédérale, la Fédération Française de Football sera respectueuse du vote des Français. Les législatives avec les sujets de discorde qui réapparaissent à gauche sur la manière de choisir un éventuel Premier ministre. Au PS, Olivier Faure assure sur RMC que c'est un vote des députés Nouveau Front Populaire qui devra choisir le prétendant à Matignon quand Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, persiste et veut que le nom du Premier ministre soit proposé par le parti en tête à gauche à l'issue de ces législatives. À l'extrême droite, Jordan Bardella pose ses conditions pour accepter Matignon. Il n'ira qu'en cas de majorité absolue, car sans majorité, il ne serait pas possible d'agir, fait valoir le président du RN. Le Premier ministre Gabriel Attal pointe des reniements de son adversaire, un refus d'obstacle. Le décès ce matin de l'actrice Anouk Aimée, à 92 ans, l'icône du cinéma, avait joué dans les films Un homme et une femme, Lola et la Dolce Vita notamment. Et puis du côté des bonnes nouvelles, les prix des carburants qui continuent de baisser depuis avril. L'essence sans plomb 95 s'affichait au tarif d'1,80€ le litre en moyenne la semaine dernière, soit une baisse de 3 centimes par rapport à la semaine précédente. Moins 7 centimes pour le super sans plomb à 1,80€. RMC 13h04, c'est la suite d'Estelle Midi avec Estelle Denis.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h04, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau, avec la militante associative Anne-Sophie Saint-Père, et le journaliste Fred Hermel. On est avec vous également au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir au nouveau Front Populaire qui souhaite rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, bonne ou mauvaise idée. On parlera également, à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, 84% des Français réclament davantage de protection contre la fumée du tabac. Faut-il interdire la cigarette dans l'espace public? À 14h30, ce sera RMC Conso. On vous dira comment faire pour réduire la facture de votre mariage. Parce que oui, le mariage, ça peut coûter très cher. Et puis il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Et on parlera notamment de l'audience du jour, l'audience du match des Bleus, premier match de l'Euro 2024. Bon, c'était pas mal pour TF1, certes, mais c'est beaucoup moins que les années précédentes pour un premier match dans l'Euro. On en parlera.
RMC Estelle Midi.
5 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le souhait du jour, et c'est celui du nouveau Front Populaire qui envisage de rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, en cas de victoire aux législatives. Cet impôt avait été remplacé par Emmanuel Macron en 2018 et remplacé donc par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça pourrait rapporter combien, Rémi ?
Alors, le président de la République, il faut le savoir, à l'époque, justifiait son action en précisant que l'ISF coûte cher à nos entreprises et à notre économie, et qu'il conduit des centaines de contribuables à s'expatrier chaque année. Sur ce dernier point, c'est très discuté par les économistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un manque à gagner. En 2017, 360 000 ménages étaient redevables de l'ISF, l'impôt sur la grande fortune. Un an plus tard, quand cet ISF a disparu et qu'il a été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il n'y avait plus que 133 000 foyers qui étaient acquittables. Les recettes fiscales ont donc tout naturellement plongé. Un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros en 2022, selon France Stratégie. France Stratégie, c'est une institution qui dépend de Matignon. Reste qu'en de nombreux endroits en Europe, la tendance, elle est bien à la disparition de l'ISF. Les Pays-Bas, qui l'avaient instauré en 1894, l'ont supprimé en 2001. Avant cela, l'Autriche l'a supprimé, l'ISF, en 94, le Danemark en 1995, l'Allemagne et l'Irlande en 1997, la Finlande et la Suède y ont mis fin en 2006 et en 2007. Et en 2021, tendance différente. Il y a eu rétablissement d'un ISF, d'une forme d'impôt sur la grande fortune en Norvège. Et là, il y a eu une fuite évidente des capitaux des personnes qui étaient assujetties à cet impôt.
Alors, le nouveau Front Populaire qui veut rétablir l'ISF, pour ou contre? Thierry Moreau.
Alors, l'ISF cristallise beaucoup de choses, parce que c'est trois lettres qui repoussent ou qui, au contraire, entraînent de l'adhésion. Moi, je pense qu'on a un problème de répartition de la richesse aujourd'hui en France. Il est anormal qu'aujourd'hui, les plus riches des Français soient imposés à environ 2% de ce qu'ils gagnent, alors que les tranches supérieures, les tranches supérieures des cadres sup, c'est 45%. Donc ça, c'est pas juste. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est inentendable par les Français. Donc, il faut une meilleure répartition de l'imposition, et notamment taxer les plus riches. Est-ce qu'il faut l'appeler ISF? Je suis pas sûr. Rappelez-vous, aux États-Unis, entre les années 30 et les années 80, les plus riches, alors ça concernait très peu de monde, certes, mais les plus riches étaient taxés entre 70 et 94%. Et pourtant, c'est pas des bolcheviks. Donc, je pense que aujourd'hui, où les Français, et on l'a vu dans nos précédents débats, ils ont plus confiance dans le politique. Ils trouvent que il y a une déconnexion entre les politiques et nous. Je pense que ce genre de message, même si ça ne rapporterait pas énormément d'argent, ce serait un message d'honnêteté citoyenne, de contribution à la chose commune de la part des plus riches, qui serait tout à fait entendable. Et donc je suis pour, mais je ne l'appellerai pas ISF. Je trouvais un autre nom parce que ça cristallise trop de combats politiques.
Alors, il y a l'ISF, mais il y a aussi l'idée de taxer plus aussi ceux qui gagnent plus de 4000 euros et de mieux taxer également l'héritage. Donc,
plus de tranches.
Donc ça fait, il n'y a pas que l'ISF,
pas que
en fait. Exactement. Est-ce que vous trouvez ça finalement normal de taxer plus les riches, donc à la fois sur leur patrimoine et à la fois sur ce qu'ils gagnent, Anne-Sophie Saint-Père?
Oui, moi je pense que c'est une mesure qui est à la fois financièrement faisable et politiquement très souhaitable pour les raisons que je viens d'exposer Thierry. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est plus taxé sur des salaires, des revenus, alors que les personnes extrêmement riches, on parle de personnes qui ont au-delà de 10 millions de patrimoine, vont plutôt se rémunérer avec des dividendes, où il y a des possibilités d'évasion fiscale énormes en passant par des holdings. Et donc, en fait, ça donne une situation où concrètement, des gens qui ont des revenus, même des salaires très élevés, vont payer jusqu'à 50% de leurs revenus en impôts, alors que pour des millionnaires, ils seront, c'est le taux effectif, c'est les chiffres de Gabriel Zucman, ils seront taxés beaucoup moins proportionnellement. Je crois que c'est de 27% tout compris. Mais ça crée une impression d'injustice extrêmement forte. Et si on regarde les taux qui sont proposés pour cet impôt sur la fortune, dont on pourrait changer le nom, effectivement, pour arrêter de se crisper dessus, on est sur des taux de 1% au-delà de 10 millions d'euros, de 2% au-delà de 20 millions et 3% à partir de 30 millions. Et là-dessus, on pourrait gagner 20 à 30 millions de recettes fiscales. Ce serait pas un ISF comme exactement comme le précédent, parce qu'il y a plein de choses à réajuster pour éviter les effets de contournement, les niches et les évasions. Mais ce serait un impôt de justice fiscale qui montrerait que les revenus du capital sont taxés également. Par ailleurs, c'est quelque chose qui se discute dans d'autres pays. La Norvège l'a rétabli. Il existe au Luxembourg. Biden a mis sur la table une billionaire tax. Et puis, il faudrait qu'il soit accompagné d'une exit tax pour éviter les effets de fuite. Et là encore...
Non, mais attends, un moment, excuse-moi. Mais pardon, mais...
Attends, mais à un moment,
la personne qui a son entreprise en France et qui a envie d'échapper à cet impôt parce qu'elle le trouve injuste et qui part en Allemagne, tu vas pas en plus le taxer, quoi.
Alors, par exemple, cette exit tax, elle existe aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous êtes né aux États-Unis, toute votre vie, vous devez vos impôts aux États-Unis.
Même si vous voulez
aller
L'impôt aux États-Unis est bien moindre.
Et si vous avez une carte verte pendant 8 à 15 ans, vous avez aussi une exit tax quand vous partez.
Mais l'impôt aux États-Unis est deux fois moindre qu'en France.
Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, ça existe. C'est des systèmes qui existent. Et par ailleurs, j'ai perdu le fil de mes pensées. Mais si vous avez fait fortune en France, c'est normal aussi de payer des impôts en France parce que vous avez fait fortune.
Et personne ne dit que c'est normal de payer des impôts.
Oui, mais du coup, si vous déménagez pendant une certaine période, vous continuez à payer vos impôts parce que vous avez bénéficié de salariés qui ont été formés en France, parce que vous avez bénéficié de salariés qui ont été soignés en France. Et voilà, c'est normal, c'est de la contribution. Et en 2023, je crois qu'il y a 200 millionnaires de 13 pays différents qui ont écrit au G20 pour demander à être plus taxés. Parce qu'aujourd'hui, mondialement,
il y en a des Français. Pas des millionnaires, des multimillionnaires. C'est pas du tout pareil.
Mais là, on parle
C'est pas pareil d'avoir 100 millions ou d'avoir 1 million. C'est pas du tout pareil.
Non, oui, mais là, on parle de gens à partir de 10 millions. C'est une question de paix sociale aujourd'hui, qui est plus ce sentiment d'injustice. Quand on travaille, on est plus taxé sur son salaire que quelqu'un qui va se rémunérer sur des dividendes en les faisant passer par une holding via une société mère.
Je suis d'accord avec toi, sauf que là, le nouveau Front Populaire, il veut aussi augmenter, encore une fois, les impôts de ceux qui gagnent plus de 3 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la double peine. C'est-à-dire que mettons, tu gagnes, je te dis pas, tu gagnes 100 millions, il n'y a pas de problème, mais si tu gagnes 6 000 euros et que tu as un petit peu de patrimoine, tu seras à la fois plus taxé sur tes impôts, alors que 6 000 euros, tu es déjà à une tranche très très supérieure. Et ensuite, tu seras taxé aussi à l'ISF si tu as eu le malheur d'acheter un appartement il y a 20 ans à Paris. Donc en fait tu vas être doublement taxé.
L'appartement, c'est déjà dans l'impôt sur la fortune immobilière. Moi, je pense que justement, c'est intéressant de sortir de ce tout immobilier pour aller vers la fiscalité des dividendes et des actions.
Donc, tu peux plus
épargner,
alors.
Et par ailleurs, personne n'épargne. Enfin, personne. Dans les gens normands, on n'épargne pas 10 millions. Mais l'impôt sur la fortune immobilière, il existe déjà, et par ailleurs, on peut aussi prévoir des abattements. Ensuite, là, tu me posais la question sur l'ISF, je réponds sur l'ISF. Sur la progressivité des impôts sur le revenu, c'est un tout autre débat sur lequel il faudrait se pencher. Mais sur l'ISF, moi, je pense que vraiment, et d'ailleurs, j'ai regardé plein de sondages, la majorité des Français est pour. On a besoin de justice fiscale aujourd'hui.
Oui. Non, mais d'accord. Alors après, t'es la première à dénoncer certains de nos sondages. Donc, est-ce qu'il faut gouverner avec les sondages? Ça, c'est encore une autre.
Non, mais je pense que là, aujourd'hui, débat. En termes d'apaisement, ce sera un signal.
Fred Hermel, est-ce que, justement, selon vous, cet ISF est de nature à faire partir certains patrons, on va dire?
Oui, c'est-à-dire que moi, en matière de financement, de finances publiques, je n'ai pas de dogme, en fait. Je suis très pragmatique, en fait. Moi, ce que je veux, c'est que ça rapporte et qu'on puisse financer ce pays, quoi. Les infrastructures, la sécurité, l'école, les hôpitaux. Enfin, voilà, moi, j'ai envie que ce pays reste un grand pays et qu'il protège ses citoyens. En fait, ça n'a pas marché, l'ISF. Voilà, c'est tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas rentable. Moi, je suis pour qu'on taxe vraiment les ultra riches. Franchement, si on commence à taxer les gens qui gagnent 4000, enfin, c'est très rapide. Un foyer fiscal de personnes qui travaillent arrive à 4000 euros, ça va très vite.
Apparemment, c'est ceux qui, enfin, un revenu.
C'est un revenu.
Oui, mais même 4000.
Oui, non.
Enfin, souvent, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui, à 50 ans, gagnent 4000 euros.
C'est pas la majorité des Français. Non, la majorité gagnant.
Mais ce sont pas les riches non plus, quoi. Et ceux-là, ils sont hyper taxés au niveau de l'impôt sur le revenu.
Selon, je crois que c'est l'Observatoire des inégalités, on est riche à partir de 3860 euros par personne.
Mais justement, là, l'idée, c'est parce que les revenus sont beaucoup taxés, donc il faut aussi taxer le capital. Aussi,
donc, c'est-à-dire que, soyons pragmatiques, si ça marche SF, ok, mais on a bien vu, depuis des années, depuis Mitterrand, en fait, c'est depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc il y a une espèce de dogme, en fait, c'était la révolution qu'a représenté l'arrivée de la gauche au pouvoir le 10 mai 81. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce... Aujourd'hui, nous sommes dans une économie totalement globalisée et que c'est hyper facile d'aller ailleurs et d'installer ton entreprise ailleurs. Donc, moi, je suis pour... Mais si... en fin de compte, c'est rentable. Et ça prouve que ce n'est pas rentable. Si on perd des gens qui s'en vont à l'étranger, notamment parce que c'est très facile, par exemple, d'aller en Belgique. Les 100 familles, les familles qui ont beaucoup d'argent dans le Nord, oui. Eh ben, elles habitent toutes en Belgique, notamment pour les questions d'héritage et de succession. Ils font 10 kilomètres et ils habitent en Belgique. Oui. Ils habitent en Flandre. En Belgique, oui. C'est à côté. Donc c'est, à partir du moment où il n'y a pas d'harmonie fiscale européenne, c'est impossible de faire ce genre d'impôt. Moi, je suis pour une refonte de l'administration fiscale. Pas d'administration, parce qu'elle fonctionne très bien. Enfin, des bases, oui. Des barèmes. Qui est beaucoup plus de progressivité.
Mais tu peux pas demander, allez, on va dire, à quelqu'un qui gagne, je sais n'importe quoi, mais aller 6 000 euros par mois, à la fois d'augmenter son salaire et l'ISF. Tu fais l'ISF très bien, mais dans ce cas, tu vas pas lui demander d'augmenter encore ses impôts.
Il y a très peu. Je pense qu'il y a pas vraiment de gens qui vont être concernés par ce cas de figure, en fait. Les gens concernés par l'ISF, en fait, ils se rémunèrent très peu par revenu et beaucoup plus par actions et dividendes.
Ouais, après,
et par ailleurs, sur la question de l'évasion, effectivement, l'ISF, il faut qu'il y ait une exit tax avec.
Oui. Après, sur la question de... j'ai perdu le fil, tu m'as coupé, mais...
De l'ISF et des revenus. En tout cas, vous êtes nombreux à nous appeler.
C'était très intéressant
débat.
Pourtant.
J'imagine. On va commencer avec Thomas, qui nous appelle de Paris et qui est gestionnaire de patrimoine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ça va vous donner du boulot, hein, cet ISF.
Ah ouais, non mais là, c'est une connerie, mais alors là, je peux vous garantir. Vraiment, si vous faites ça, vous êtes tranquille. Vous aurez, comme vous dites, une partie de la population qui va partir. Ça, c'est sûr. Une partie des richesses qui vont partir, et c'est complètement contre-productif. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez une personne qui est taxée en ISF tous les ans, par exemple, à 20%, ou alors, je sais pas quel taux d'imposition veut mettre le Fonds Populaire là, avec leur ISF, ou alors est-ce que vous voulez quelqu'un qui, tous les ans, grâce à ce qu'il gagne, puisse réinvestir soit dans des sociétés, soit dans le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle il est? Est-ce que il y a un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. L'ISF est complètement contre-productif. Faire fonctionner, parce que en plus cet impôt ne retourne pas ensuite aux sociétés, il retourne au fonctionnement de l'État, et c'est pas forcément la meilleure
chose.
Voilà. Donc si on veut réellement faire quelque chose d'intelligent, continuons avec l'IFI qui est là, parce qu'on sait que la valeur immobilière, elle est là, on peut taxer, c'est des valeurs refuges, voilà. Mais l'ISF sur les valeurs où les gens peuvent travailler au quotidien avec et développer leurs entreprises grâce à l'argent qu'ils ne mettront pas justement dans cet ISF, ça c'est une vraie solution. Enfin, je peux comprendre que...
Dans vos clients, vous avez, Thomas...
Des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Oui, on peut parler des familles Arnault.
Il y a 43 milliardaires en France.
Quel est le pourcentage de réinvestissement qu'ils font tous les ans? C'est peut-être ça aussi la question qu'il faudrait poser. Ces gens-là font vivre la France, ils font travailler combien de personnes en France?
Non mais ceux-là, les milliardaires, Thomas, encore une fois, si on leur prend 2 ou 3% de plus, ils verront pas trop la différence. Le problème se pose pour ceux qui sont en dessous et qui sont riches sans être ultra riches. C'est-à-dire, j'imagine la majorité de vos clients. Mais Thomas, est-ce que vous avez des clients qui aujourd'hui vous disent, s'il y a l'ISF, je pars?
Tout à fait.
D'accord.
C'est déjà, je connais même des clients qui, depuis la création du Front Populaire et la mise en place de leur proposition, ont dit qu'est-ce que ça sert à quoi de rester ici si on se retrouve entouré que d'extrêmes. Et voilà la réflexion générale qu'on me donne en ce moment.
En tout cas, parmi vos clients très aisés. Merci Thomas, en tout cas, de nous avoir donné votre avis. Ça donne quoi sur l'application RMC, Rémi?
Ce message de Guillaume qui nous dit l'ISF, c'est avant tout un impôt symbolique dont l'inefficacité, selon lui, est bien établie. Il s'agit principalement d'un moyen de canaliser la frustration populaire envers les riches perçus comme ayant forcément triché ou exploiter les autres.
Alors après, c'est pas inefficace, hein, parce que tu l'as rappelé, Rémi, il y a effectivement un manque à gagner depuis qu'il n'y a plus l'ISF de 4 milliards et demi d'euros.
Tout le débat est là, c'est très discuté, franchement. Un peu ce matin quand même sur le sujet. Il y a autant d'économistes qui disent que ça rapporte de l'argent, mais ça fait fuir un certain nombre d'administrations.
Donc à terme, ça fait perdre de l'argent.
Et voilà, il y en a d'autres qui disent que ça ramène quand même de l'argent, que la fuite n'est pas si massive. Bon, voilà, c'est très discuté et c'est pas pour rien.
On en a beaucoup débattu ce matin.
Et c'est pas pour rien si ça reste un débat, c'est un serpent de mer depuis des années, des décennies, même en France.
Notre invitée sur ce débat, c'est Anne-Laure Delatte. Elle est chercheure en économie au CNRS. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on s'écharpe sur l'ISF là, depuis quelques minutes. Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous le retour de cet impôt sur la fortune?
En fait, j'ai écouté votre débat et c'est hyper intéressant. Pour moi, le principal argument contre, c'est le fait qu'il y a des gens qui vont partir. En fait, il n'y a pas de fatalité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Mm-hmm. Vous avez une des débatteuses qui a parlé d'exit tax. J'aimerais expliquer ce que c'est, en fait. L'idée, c'est que si vous remettez un impôt sur les patrimoines et qu'effectivement, vous n'empêchez pas l'exil fiscal, alors... vous allez avoir des gens qui vont partir en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, comme vous venez de le dire. Oui. Mais on a une exit tax depuis 2012. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas mise en place. C'est quoi l'exit tax? Ça permet au fisc français d'aller collecter la différence d'impôt auprès des gens qui sont partis pour des exilés fiscaux. D'accord? Donc, moi, j'ai beaucoup de patrimoine. Je ne veux pas payer l'impôt sur les patrimoines. On ne parle pas des revenus. Hein. Sur le patrimoine en France, je pars en Suisse. Et en réalité, le fisc suisse fait un échange automatique de données avec le fisc français. Donc, le fisc français n'a même pas à aller chercher l'information. Mmh. Il la reçoit, il me repère et je dois payer la différence. Et ça, ça c'est mis en place depuis 2012. Ça a été, il y a eu pas mal de niches fiscales qui ont fait que... Vous voyez, des niches fiscales, ça permet d'éviter ce genre de truc, d'exempter. Mais en réalité, si on réforme cet exit fiscal, il n'y a pas de fatalité.
Mais... Alors attendez, mais à dehors de là, excusez-moi, je suis votre raisonnement, je m'appelle n'importe X, j'ai admettons un appartement de 2 millions d'euros à Paris et une résidence secondaire de 3 millions dans le sud de la France. Très bien, je décide de partir en Belgique, je vends mes biens parce que je pars en Belgique avec mes 5 millions d'euros. Je suis désolée, je paye plus de taxes foncières en France, je paye plus de taxes d'habitation avec ma résidence secondaire et j'ai pris tout mon argent pour aller en Belgique ou en Suisse. Oui, et vous ne pourrez pas me taxer. Il n'y a pas d'exit tax dans ces cas-là. Donc en fait, j'ai pris évidemment.
Je peux me permettre de vous couper. Évidemment qu'il y a l'exit tax parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est que. Alors d'abord, les seuils dont on parle pour l'instant, c'est plutôt 10 millions d'euros. Donc on est en train de parler
sur des gens d'ultra riches. Ben voilà, on est d'accord.
On parle de 10 millions d'euros. Ça commence à 1% pour 10 millions d'euros. Enfin, il n'y a pas vraiment exactement les précisions aujourd'hui. Mais nous, c'est ce qu'on a en tête, les économistes, parce que c'est Zucman qui dit ça. Gabriel Zucman, un économiste français qui était aux États-Unis avant. Donc lui, il dit, on taxe 1% sur les 10 millions, on taxe 2% sur ceux qui ont plus de 20 millions, on taxe 3% sur ceux qui ont plus de 100 millions. Donc on commence à parler de très peu de gens. Maintenant, dans votre exemple, la personne qui vend ses actifs immobiliers, il les transforme en actifs mobiliers, c'est-à-dire qu'il va les transformer en actions, il va les placer. Évidemment, c'est... alors, on va dire que...
Ou elle va acheter un bien aux États-Unis ou en Belgique.
Oui. Eh bien, comme il était contribuable français pendant un certain moment, il est redevable au fisc français, quelle que soit la forme de son patrimoine. Ça, c'est les États-Unis le mettent en place depuis des années, en fait, depuis les années 30. Là, l'exit tax ne serait appliqué que sur le patrimoine, si on réformait cette exit tax.
Ok. Alors,
cas, moi, c'est ce que je comprends.
Écoutez, très bien, Anne-Laure Douat, restez avec nous parce qu'on a Ludovic, qui est en ligne. Ludovic, il nous appelle du Finistère, il nous appelle de Guiclan et il est chef d'entreprise. Bonjour Ludovic.
Bonjour Estelle.
J'ai l'impression que ce retour de l'ISF vous fait peur, Ludovic.
Ah mais complètement. Moi je vais être très clair. Si l'ISF revient, je me barre.
Ah bah oui, mais vous paierez une exit tax.
Non. Je partirai plus loin. Mais il est hors de question, ça suffit, on paye déjà assez comme ça. Moi je donne 58% de ce que je gagne tous les mois, je le donne à l'État. Quand je vois ce qu'ils en font, c'est pas la peine. Donc ça suffit, stop.
Ludovic, vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros?
Non, j'ai pas, malheureusement, non.
Bah, du coup c'est bon, vous êtes pas concerné.
Oui, mais on parle pas, en fait l'ISF, excuse-moi Anne-Sophie, c'est à partir d'un million trois. Donc le problème est réglé, c'est pas 10 millions, hein. L'ISF c'est 1 million 3 et le barème n'est pas révisé par rapport à... En fait, Emmanuel Macron a supprimé, le barème est à 1 million 3, il ne change pas le barème. Étant donné que les prix de l'immobilier, c'est comme pour l'IFI, mais les prix de l'immobilier ont monté, etc. Et l'inflation étant ce qu'elle est, le barème n'a pas changé, donc il va concerner sur cet ISF plus de gens qu'avant. C'est déjà c'est mécanique. Et donc, et c'est pas du tout 10 millions. 10 millions, c'est peut-être l'exit tax, mais l'ISF en elle-même, c'est 1 million d'euros avec 30% d'abattement sur la résidence principale. Vous êtes dans
vous parlez d'IFI, du coup.
De quoi?
Vous parlez de l'impôt sur les fortunes immobilières.
L'ISF, c'est déjà pareil. Et Ludovic, vous êtes dans cette situation, vous?
Ah, tout à fait, ouais.
Mais donc, vous payez un IFI quand même?
Rien du tout. Parce que aujourd'hui, il y a des possibilités qui font que je ne le paye pas, mais je ne suis pas loin de le payer. Tout à
d'accord.
Fait.
Et vous refusez de payer un impôt supplémentaire?
Et je refuse de payer un impôt supplémentaire. Ça, c'est clair. Et je vais même vous dire mieux, vous parliez de la Belgique, mes parents sont frontaliers. Je suis prêt à soit traverser la frontière d'un côté, soit à traverser la Manche de l'autre.
Ouais, c'est dur ce que vous dites quand même, Ludovic. Vous seriez prêt à abandonner votre pays ?
Ah mais complètement. Mais alors, moi j'aime bien parce que là on les entend tous, hein, les rigolos de la politique. Là, on a aidé les entreprises, patati patata. Que dalle. Moi j'ai rien eu. J'ai fait mon entreprise tout seul. Et l'année dernière je donnais 36%. Là je suis arrivé à 58% entre les charges et les impôts, sociétés et compagnie. Je travaille seul. Je travaille 6 jours sur 7. Entre 17 et 18 heures par jour pour essayer de payer les études de mes enfants, me payer une belle maison. Oui, j'ai une belle maison, bah parce que bah, je travaille pour, donc voilà. Mmh. Et me mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Je cotise pour du Pôle emploi, machin, tout ça. Demain, je me retrouve au chômage, je n'ai le droit à rien.
Et oui, vous êtes indépendant.
Ça suffit. Je suis indépendant, ça suffit. Moi, je rêve, vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est très très dur. Moi, je rêve qu'on arrive à un système comme aux États-Unis où celui qui travaille, eh ben, on le valorise et on l'aide et il s'en sort. Et celui qui travaille pas, eh ben, il se démerde. Parce que ça commence à bien faire.
Oui, oui, je comprends et j'entends votre colère et même votre tristesse, Ludovic. Après, on est un pays social, on est un pays où effectivement, bah, on aide ceux qui n'ont rien et ça fait partie de, bah, voilà, ça fait partie des spécificités de la France et ça nous rend fiers aussi, voilà, de pouvoir aider ceux qui n'ont rien. Je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, les gens qui payent des impôts, même ceux qui en payent beaucoup, ils sont contents de payer des impôts et de participer. Mais c'est rajouter un impôt, je suis pas sûr que même si les gens ne le payent pas, vous savez, c'est comme on l'a fait beaucoup, la taxation sur l'héritage. La plupart des Français ne sont pas taxés sur l'héritage, mais ils détestent l'idée qu'on puisse avoir un impôt sur les successions. Et alors l'ISF, les Français sont plutôt pour, mais quand vous rajoutez un impôt sur l'impôt sur l'impôt, il y a un moment où effectivement on peut aboutir à ce qu'on entend chez Ludovic. En tout cas, merci Anne-Laure Delatte d'avoir été avec nous et de nous avoir explicité l'exit tax, voilà, dont on connaissait assez peu l'existence. Merci beaucoup. On va terminer avec des messages, Rémi, sur l'appli RMC, les résultats de notre sondage.
Même tendance pour Théo qui nous dit bonjour l'équipe d'Estelle, encore une vraie fausse bonne idée facile qu'est le rétablissement de l'USF. On flatte les fantasmes du bas peuple dont je fais partie, mais je ne tombe pas dans le panneau. Voilà ce que nous dit Théo.
Ben, je suis très étonnée de ne pas avoir plus de gens qui sont en faveur de l'ISF. On va voir ce que ça donne quand même sur le sondage.
Ouais, mais les messages ne sont pas représentatifs du résultat final parce que c'est pour le rétablissement de l'ISF. Alors, c'est pas massif, mais quand même, hein, 60% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont plutôt favorables.
Allez, dans un instant, ce sera le zapping. Le meilleur d'RMC, on va parler de cette TVA à 5,5 sur l'énergie. Est-ce que c'est réaliste ou utopique? En tout cas, c'est l'une des promesses de Jordan Bardella. On va se demander si vous seriez prêt à acheter de la seconde main Chine. On va demander à Anne-Sophie ce qu'elle en pense. C'est de la seconde main quand même, Anne-Sophie. Et puis, on va parler de l'équipe de France de foot hier. Est-ce qu'elle vous a séduit ou pas, cette équipe de France? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième partie consacrée à Spoticar, toujours en présence d'Adeline Esprit, qui est la directrice marketing. Adeline, il est légitime aujourd'hui que les futurs clients se posent des questions sur l'électrique.
Et en tant que leader de l'occasion, nous avons déjà les réponses. L'assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en Europe, jusqu'à 3 fois par an, si le client tombe en panne de batterie.
Ah oui, donc là c'est du vrai service.
Et au-delà du service, je pense que ce qui est vraiment important d'expliquer à nos clients, c'est qu'ils ont un accompagnement.
Spoticar, des occasions pleines d'avenir.
Non mais tu te rends compte, mes clients me demandent d'isoler leurs murs et combles avec un isolant ultra performant été comme hiver, éco-conçu et recyclable. Ils ont vu ça où ?
Toi tu connais pas l'isolant Hybris de chez Actis ? Il coche toutes les cases et en plus il est génial à poser.
L'isolant Hybris ? Tu me sauves, je rappelle mes clients.
Actis, innover pour mieux isoler.
Qui ne chante pas la patrie ? Qui ne chante pas la patrie ?
Bravo les gars, super performance. On continue à trier comme ça sur tous les chantiers, allez.
Trier ses déchets, ça fait partie du jeu. Et bonne nouvelle, ils sont repris gratuitement. Téléchargez l'appli Valo Dépôt pour trouver un point de reprise Valobat. Ford Pro.
Allez, ben le dis, c'est le moment d'être plus productif. Hop, hop, hop.
Plus productif, ok, d'accord, patron, mais comment?
Bah, avec Ford Pro, ben le dis.
Allez, bien sûr, avec Ford Pro, j'allais le dire.
Pendant les jours plus productifs, boostez votre productivité avec le nouveau Ford Transit Courrier à partir de 169 € par mois. Ford Pro. Crédit bail 60 mois et 100 000 km. Premier loyer de 5 500 €. Option d'achat 6 231 €. Coût total si achat 27 119 €. Si acceptation par Ford Crédit. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin. Montant hors taxe. Voir Ford.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Être à vos côtés depuis 90 ans, ça rend forcément plus humain. C'est pourquoi
à l'occasion de ses 90 ans, GMF vous offre jusqu'à 150€ pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation. Et ce jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Un pare-brise à remplacer? Un impact à réparer? Prenez rendez-vous en 3 minutes sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Et jusqu'au 28 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un produit Karcher. Un lave-vitre ou un aspirateur d'une valeur de 60€, c'est offert. Et oui, c'est vous qui choisissez le produit Karcher que vous voulez. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a ?
Une famille nombreuse et des parents en panique, perdus entre tous les forfaits des ados.
Et toutes les factures. Ok. Monsieur ?
Oui ?
Vous savez, chez Bouygues Télécom, plus vous avez de lignes, plus c'est avantageux.
Waouh ! Vous entendez ça, les enfants ?
En ce moment, chez Bouygues Télécom, découvrez le forfait à 2€. Si vous souscrivez une B-Box et un forfait, profitez en plus d'un forfait sans engagement avec 5 gigas en 5G pour seulement 2€ par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, 5G avec mobile compatible.
Qu'est-ce qui vous fait aimer l'été ? C'est qu'avec tous les bons plans que Decathlon vous a réservés, vous allez pouvoir vous la raconter avec votre nouveau matos tout nouveau tout beau ? Bon, après, c'est pas le tout de se la raconter. Il s'agit aussi de transpirer un peu, hein ? Et en parlant de bons plans, du 18 au 25 juin, pendant les 8 jours immanquables, si vous êtes détenteur d'un compte client Decathlon, vous bénéficiez d'un bon d'achat de 5 à 200€ sur une sélection de produits à découvrir en magasin ou sur decathlon.fr. Voir conditions de l'offre et d'utilisation des bons d'achat en magasin et sur decathlon.fr.
À tous ceux qui trouvent que c'est pas mal d'être le moins cher de sa ville, ceux qui pensent que c'est déjà bien d'être le moins cher de son département, et ceux qui trouvent qu'être le moins cher de sa région, c'est une belle performance. Eh ben, vous devriez voir un peu plus grand que ça. Chez Intermarché, la boîte de 4 bâtonnets de glace Colosse à la vanille aux amandes Adélie est à seulement 1,75€. C'est la moins chère de France et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 juin, 328 grammes, soit 5,34€ le kilo, sur la base d'un relevé en date du 17 juin. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Peugeot. Il y a la reprise et il y a la reprise par Peugeot. La façon la plus simple, la plus rapide, mais aussi la plus sûre de revendre votre voiture. Et en ce moment, c'est également la plus avantageuse. Car pendant les 24 jours chrono, Peugeot vous offre jusqu'à 5000€ d'avantage client pour la reprise de votre véhicule. Alors jusqu'au 24 juin, venez découvrir nos modèles en point de vente et profitez de conditions exceptionnelles pour repartir au volant de votre nouvelle Peugeot.
Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 24 juin. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Et voici tout de suite le zapping, le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Une TVA à 5,5 sur les énergies, est-ce réaliste ou utopique ? C'est l'une des promesses faites par Jordan Bardella s'il devient Premier ministre à l'issue des élections législatives. Baisser la TVA à 5,5% sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Une mesure qui coûterait tout de même 17 milliards d'euros aux finances publiques selon le ministère de l'économie.
Oui, c'est une bonne idée, mais la question c'est est-ce qu'on peut le faire ? Je crois qu'il y a un économiste qui était passé chez Apolline qui a dit que c'est illégal. On ne peut pas modifier le taux de TVA qui est à 20% sur les carburants. C'est impossible à faire, il faut passer par l'Europe. Mm-hmm. Donc en fait, baisser le taux de TVA à 5,5%, ça ne peut pas se faire. Ou alors il faut un consensus européen. Dire qu'on va toucher à la TVA pour faire rentrer du pouvoir d'achat dans la poche des Français, c'est pas faisable.
Oui, 17 milliards d'euros, ça fait cher quand même, Fred Hermel.
Oui. Alors, on est clairement dans la mesure annoncée juste avant les élections. Hein. Ça, c'est automatiquement parce que ce qui coûte cher, c'est l'énergie depuis surtout deux ans à peu près.
Et Bruno Le Maire a promis une baisse de l'énergie de 15%.
Oui, mais il a promis tellement de choses depuis Monsieur Le Maire que oui. Alors, je vois l'effet parce que ça paraît. En fait, c'est une mesure assez simpliste. Ce que tu dis aux gens, on va baisser la TVA à 5,5. Automatiquement, l'essence va coûter beaucoup moins cher. Après, je me méfie aussi des distributeurs d'essence. Parce que ils peuvent quand même fixer. Rappelez-vous avec la baisse de la TVA sur la restauration sous Chirac.
Ah bah oui, mais on n'en avait pas vu la couleur.
On n'a pas vu la couleur parce qu'en fait, ça s'est passé dans les marges des restaurateurs. Donc, mesure simpliste, électoraliste pour le peuple. Mais bon, a priori, ça va être compliqué à mettre en place.
Anne-Sophie Saint-Père, ce serait une bonne idée ou pas?
Moi, en fait, il y a plein de choses qui me posent question. C'est si on enlève 17 milliards de recettes, qu'est-ce qu'on met comme recettes en face? Parce qu'on a quand même un problème de déficit et puis on a des services publics à financer. Donc, je pense que quand on propose une mesure qui enlève des recettes, il faut proposer une compensation ou alors assumer qu'on va couper dans les dépenses de l'éducation nationale ou l'hôpital.
Je pense que c'est une relance par la consommation. Voilà. Ils se disent, les 100 euros que tu mettras pas dans l'essence, bah, tu les mettras dans d'autres choses.
Et sauf donc, que 17 milliards aujourd'hui, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a fait une réforme des retraites pour 10 milliards, donc aujourd'hui, annoncer qu'on a une perte de 17 milliards, c'est beaucoup trop. Donc pour moi, ça me paraît pas très réaliste de ce point de vue-là. Par ailleurs, il y a l'enjeu que c'est sur l'énergie et sur l'énergie, je pense qu'il faut aussi avoir une forme de progressivité, c'est-à-dire que ne pas faire payer de la même manière une personne qui a besoin d'essence pour aller travailler, une personne... Mais oui, mais c'est en fait... On est quand même sur un enjeu où il faut éviter les surconsommations et comme il peut y avoir sur l'eau d'ailleurs, de moins taxer les premières consommations et ensuite plus ça augmente, plus on taxe, mais parce que c'est à la fois un service vital et à la fois un service sur lequel on a besoin de faire des économies en consommation globale. Donc voilà, moi ce serait mes deux limites, mais principalement où est la recette en face, quoi.
Oui, mais tu vas pénaliser les gens qui roulent beaucoup dans les campagnes et c'est pas les plus riches. Donc en fait, si tu commences à...
Si ça répond à un besoin, c'est tout à fait nécessaire, quoi.
Il faut quand même noter que les partis qui proposent la baisse à 5,5 ne donnent plus de chiffres maintenant. Ils disent simplement on va baisser la TVA sur l'énergie. Ça veut dire que donc c'est une promesse de campagne qui ne sera sans doute pas tenue. Il faut bien l'intégrer. La deuxième chose, c'est que l'aberration, c'est qu'on payait l'énergie pas cher et qu'aujourd'hui, on la paye plutôt au juste prix. Alors, je sais que c'est inentendable pour beaucoup de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, mais c'est parce que l'énergie était peu chère et qu'on n'arrivera pas, on ne retrouvera pas...
C'est grâce au nucléaire qu'on a sabordé.
Tout à fait, mais on ne retrouvera pas un prix de l'énergie aussi bas que ce qu'on a connu par le passé. C'est impossible, tous les économistes sont d'accord là-dessus.
Charles Matin, ce matin sur RMC, seriez-vous prêt à acheter de la seconde main Chine? Le mastodonte de l'ultra fast fashion chinois se lance dans le marché de l'occasion en France, une façon de capter les adeptes de la seconde main, sans oublier de séduire les nouveaux acheteurs, comme nous l'expliquait ce matin Emmanuel Le Chypre.
Ça s'appelle Chine Exchange. Alors attention, produits à échanger qui, pour apparaître sur cette plateforme, doivent avoir... d'abord été acheté chez Chine la première fois, et c'est facile du coup pour les clients puisqu'ils pourront directement en quelques clics revendre les articles qu'ils ont achetés neufs. L'objectif, c'est l'objectif de répondre finalement aux accusations d'irresponsabilité écolo, vous savez, de la fast fashion. Mais le principal intérêt pour Chine, c'est un, d'empêcher ses clients d'aller voir ailleurs, vous savez, sur les autres plateformes d'échange comme Vinted, etc. Ouais. Mais c'est surtout de masquer un phénomène qui n'est pas apparu au grand jour. Est-ce que vous savez de combien les prix des produits Chine ont augmenté depuis 2023?
Il y a une grosse inflation sur Chine.
Plus 60%.
Enfin, plus 60% d'un euro, ça fait toujours un t-shirt pas cher. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'on a le droit de se laisser séduire par la seconde main Chine? De toute façon, ça y est, ça a été acheté, donc c'est là.
Ouais, alors moi le premier truc qui me vient en tête, c'est que je me demande dans quel état est le vêtement, parce que je suis pas sûre que ce soit d'une très très grande qualité, hyper solide, vu les prix.
J'ai fait un petit sondage ce matin et les avis divergent sur la qualité de Chine.
Ok, alors moi effectivement, j'ai jamais acheté de vêtements Chine, donc je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que, enfin, ou alors sinon je ne comprends pas comment ils font pour écraser ces prix, ou alors sinon ils font travailler des esclaves quelque part, peut-être. Excellente raison pour dire qu'on boycotte, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire travailler des esclaves.
Mais une fois que c'est là, c'est-à-dire que par exemple, une fois que c'est sur Vinted, la seconde main.
Mais là, ça leur permet aussi de vivre en tant que marque, d'avoir ce truc de seconde main. Donc d'accord. En fait, on revalide ce principe d'avoir un écrasement des prix, de la mauvaise qualité, une garde-robe qui se renouvelle tout le temps. On n'est pas obligé en fait de renouveler tout le temps sa garde-robe.
De verdir un petit peu la marque. Quoi qu'il arrive,
c'est le greenwashing et puis c'est cynique. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que la vente d'occasion se fasse sur un autre site que le sien, c'est-à-dire en gros Vinted, ils ramènent ça chez eux. C'est du marketing. Et du capitalisme.
Parce que je suis quand même allé voir, pour le coup, mais sur Vinted, il y a plein de trucs Chine. Et effectivement, des t-shirts à 1 euro.
Là, ils vont essayer de recapter.
Alors, j'ai regardé les frais de port. Alors, t'es à 2,80 de frais de port, mais ça te fait toujours 3,80 euros le t-shirt. Ce qui est toujours un prix imbattable, sauf s'il est en très mauvais état, bien sûr. Fred Hermel.
Je préfère aller à poil que de porter du chine.
D'accord. Bon, bah, écoutez,
c'est Mais alors, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas recours aux esclaves. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne commande pas sur des applications pour mettre la bouffe et tout ça. Non, j'ai un petit principe, je n'ai pas recours aux esclaves. Voilà.
D'accord. Donc, même la seconde main.
C'est tout à ton honneur.
Même la seconde main.
Non, parce que Anne-Sophie a commencé à l'expliquer. En fait, la seconde main participe à la première main.
Bah,
parce que pour qu'il y ait de la seconde main, il faut qu'il y ait de la première main. Donc si tu achètes la seconde main, tu fais fonctionner la première main.
Oui, mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Regarde, tu cherches un t-shirt noir pour une soirée, je dis n'importe quoi. Donc, soit tu n'as pas beaucoup de moyens. Donc, soit tu vas l'acheter chez Chine. Donc, tu vas acheter un t-shirt neuf qui fera que ça continuera d'alimenter le chiffre d'affaires de la société, etc. Mais si tu achètes un vieux t-shirt Chine, enfin, je veux dire, un t-shirt de seconde main Chine, par exemple, sur Vinted ou quoi, ben, tu n'alimentes plus la machine.
Oui, mais si tu vas dans une friperie, tu vas trouver ton t-shirt noir d'une autre marque qui n'a pas eu
d'accord, mais
des Ouïghours,
si c'est un Chine, tu prends ou pas?
Ah, mais non, moi, je prends pas ce genre de choses. Non, mais moi, je regarde l'étiquette.
Okay.
Moi, maximum, que je puisse, je regarde l'étiquette et ça va jamais au-delà du Maroc, quoi.
D'accord.
Non mais c'est vrai.
Quoi. Très bien.
Après, c'est évident qu'il y a des t-shirts qui viennent de Thaïlande, viennent de trucs. Mais c'est vrai que je regarde les étiquettes, quoi.
Eh ben écoutez, bravo Frédéric. L'intégrale Euro 2024 hier, l'équipe de France vous a-t-elle séduit hier soir? L'équipe de France fait son entrée dans la compétition européenne face à l'Autriche et a battu l'Autriche donc 1-0 grâce à un but contre son camp, un défenseur autrichien. Un événement que vous avez pu vivre en direct sur RMC avec au commentaire Jeannot Rességuet.
Mbappé côté droit, Mbappé qui va tenter de dribbler, de centrer.
Yeah,
oui, contre son camp, le but de Weber, contre son camp, sur le débordement de Kylian Mbappé qui est allé chercher la tête de Griezmann. Le ballon est venu au premier poteau. Weber a regardé Griezmann, n'a pas regardé le ballon et il a fini par la mettre au fond de ses propres filets. L'équipe de France est toute heureuse d'ouvrir la marque avec ce but de Weber contre son camp.
Anne-Sophie Saint-Père, vous avez regardé le match hier?
Non, c'est ce que j'expliquais, j'étais au resto avec une amie. Mais au bar d'à côté, il y avait des gens qui regardaient quand même.
Fred Hermel, on est séduit ou pas par cette équipe de France? C'est un peu plan-plan, j'ai failli aller me coucher avant la fin là.
Ah mais c'était pas bien du tout. Franchement, c'était pas bien du tout.
Il n'y a pas d'engouement autour de cette Euro.
Non.
On a l'impression qu'il n'y a pas d'engouement.
On va me le reprocher, mais je suis obligé de le dire.
Vas-y.
Je pense que les déclarations électorales des joueurs ne servent pas la cause de l'équipe de France.
Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire?
Je pense que c'est pas. Voilà, on a.
Moi, ça m'a pas empêché d'en regarder le match.
Ces derniers jours, on a plus parlé des déclarations politiques des joueurs que du match. Et c'est pas bon.
Oui, mais après, c'est.
Et j'écoutais.
On parle de politique depuis que. Parce que.
Oui, d'accord. Non, mais on parle de politique. C'est la première fois que la veille d'un match, le capitaine de l'équipe de France parle politique. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire d'une grande compétition.
Oui, mais enfin, c'est assez rare qu'il y ait des législatives juste avant le premier match de l'Euro.
Et moi, je suis d'accord avec mon ami Dugarry qui parlait chez Jérôme Hotten hier, qui parlait justement de ça, quoi, en disant que c'est pas très très bon, en fait. Il faut laisser le sport au sport. Je sais que le foot est profondément politique.
Mais
pas au moment de la compétition, ça, pas au moment où tu joues, quoi.
Mais c'est pas ça qui a fait qu'on s'est un peu ennuyé devant le match. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je pense que tout ça, et voilà, je pense que quand tu es un professionnel du football et que la veille d'un match, tu parles d'autre chose que du match, je pense que tu n'es pas totalement concentré sur le match. Je veux dire,
ça explique le mauvais match.
Non. Moi, je trouve que l'équipe de France, il y a quand même plein de joueurs qui sont pas très très bons. Que Kanté, qui est quand même en demi-retraite en Arabie Saoudite, s'est été élu le meilleur joueur du match. Excusez-moi.
Mais ça en dit long.
On est d'accord, toi et moi, on a quand même vu 2-3 matchs dans notre vie. Ça en dit long. J'ai pas trouvé, Griezmann, qui est mon joueur préféré de cette équipe, pas très en forme. Non, c'est pas.
C'est un premier match.
Oui,
on est rarement très bon
au premier
match.
Au niveau du style. Mais c'est quand même pas très excitant.
On va monter un peu en puissance, ça on ne peut pas baisser. Apolline Matin, ce matin sur RMC, êtes-vous un adepte de la précrastination? On parle souvent de la procrastination, qui signifie remettre à plus tard les tâches que l'on pourrait effectuer tout de suite, mais certaines personnes sont tout l'inverse et se précipitent pour faire des corvées pénibles. Les explications tout de suite avec Charles Magnin.
Certaines personnes remplissent ces tâches dès l'instant où elles le peuvent, quitte à dépenser énormément d'énergie. Les experts prennent un exemple, celui du passager qui va se présenter très en avance à l'aéroport et puis se mettre debout devant la porte d'embarquement
une demi-heure avant l'arrivée,
avec son lourd bagage sur le dos, alors qu'a priori tout le monde va atterrir en même temps. En fait, certains prennent énormément de plaisir à rayer une corvée sur la liste
choses
à faire.
Ça, oui.
Voilà ce que dit l'un des experts qui invite non pas à procrastiner, mais à lister les tâches par ordre de priorité, car oui, certaines choses peuvent attendre un peu, mais pas trop quand même.
J'aime ces gens, car j'en fais partie.
Mon Dieu.
Thierry Moreau, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, moi, je suis l'exact contraire. Je travaille aussi bien que sous la pression au dernier moment. Et surtout, ce qui m'énerve beaucoup, c'est dans les voyages, quand vous êtes dans un avion, ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion, et que une demi-heure, enfin un quart d'heure avant l'atterrissage, il y a déjà les gens dans le couloir avec leurs bagages, prêts à partir.
C'est dangereux.
Je trouve ça ridicule.
Ah, mais c'est moi. Mais le pire, c'est dans le train.
Vous ne sortez pas.
Parce que
pas
je veux sortir
tôt.
En premier, je m'en fous.
Vous ne
je veux
pas
sortir
plus tôt.
En premier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'air. Non, mais je
non, mais à ce moment-là, il faut un divan pour vous.
Non, mais
c'est pas
dans l'avion, je me mets toujours. J'adore être aux places
faut
un peu
consulter.
Devant. Tu sais. Mais t'es en écho, mais je suis toujours. Je prends toujours mon billet
la
hyper à l'avance.
C'est business, là. C'est avec le petit.
Non, pas du tout. Mais non, quand t'es en écho.
Non, en écho. La première place en écho.
Non, mais si t'as un voyage de deux heures, t'as pas d'écho. T'as pas de business, t'es en écho. Mais je prends un malin pire, je vais être dans les places de devant. Je mets tout de suite mes affaires.
C'est ton esprit compétitif. C'est ton
ne
esprit
compétitif. Tes affaires à côté de moi. Je veux dire dans la petite soute et je veux sortir en premier.
C'est ton esprit de compétiteur. Tu veux toujours être la première.
Mais bien sûr. Mais
on va pas payer en avant les factures tout de suite. Par exemple des artisans,
toujours.
C'est une très mauvaise idée.
Mais
on se fait avoir quelquefois.
Que
oui, mais on se fait avoir quelquefois.
Ah ben je me suis fait avoir. Mais je suis très content. Ben non, mais attends. Enfin, excuse-moi, je vais
pas. Vous êtes contente.
Ben attends, je vais pas m'excuser de payer les gens à l'heure. Enfin, écoute, et de payer les gens en temps et en heure. Je ne supporte pas les gens qui ne payent pas leurs factures en temps et en heure. Et tu sais qui payent au dernier moment, ça me met un frisson d'angoisse. Je vous jure. Les gens qui payent leurs impôts au dernier moment, je ne comprends pas ces gens.
Ma déclaration là, le dernier jour.
Mais ça m'étonne pas.
Enfin, je la valide le dernier.
Ah, et avant les gens ils allaient au bureau de poste du Louvre. Tu sais parce que c'est la seule
fête
de la nuit.
Bien sûr.
Mon Dieu, mais quel enfer. Anne-Sophie, comment vous êtes vous?
Alors moi, par exemple, sur les trains, je suis complètement dans la procrastination et c'est hyper drôle parce que il y a pas longtemps, il y a eu un malentendu. Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance pour prendre mon train et j'ai découvert cet univers de gens qui est assis dans le train bien avant qu'ils partent, alors que moi normalement je cours sur le quai pour l'avoir à la dernière minute. Et je me suis dit, leur vie est quand même très très paisible. Ils n'ont pas cette espèce de tension à l'arrivée du métro où on ne sait pas si on va la voir ou pas et tout. Et effectivement, il y a deux mondes qui se côtoient. Il y a les mondes de la précrastination et de la procrastination. Moi, pour les trains, je suis plutôt dans la procrastination. Par contre, pour payer, ça me stresse d'avoir des trucs à payer. Donc généralement, je le fais tout de suite, quoi.
Mais le train, tu n'imagines pas la joie. Tu sais, tu te mets tellement en mouvement. Et là, tu mets tes petits magazines, ton petit café, tes Haribo, ton téléphone que tu charges, et tout est hyper bien
organisé. Mais
juste avant que le train, démarre, là, tu vois quelqu'un qui arrive en courant.
Mais c'est moi.
J'ai plus envie. C'est que les portes se ferment.
Et là, t'as un petit sourire.
Bien sûr, je dis là, voilà.
Mais moi, je pense à tout ce que je pouvais faire pendant ces 10 minutes, aller acheter un journal, aller acheter un sandwich.
Je suis arrivée 30 minutes avant.
Je crois quand même que c'est une question d'âge.
Pourquoi?
Ah, parce qu'avant, moi, j'étais du genre à arriver en sueur avec la valise. Maintenant, je suis un vieux garçon, ça c'est clair. Et maintenant, j'ai plus de 50 ans. Je déteste stresser. Donc, je me lève une demi-heure à l'avance pour être sûr de pas stresser. Mmh. Et puis, les impôts maintenant, surtout que maintenant que ça arrive au niveau électronique. Oui. Mais je regarde, mais des deux jours avant. Puis, dès que ça arrive, paf, je le fais tout de suite.
Bien sûr.
Comme ça. Ouais. Parce que je me suis fait des coups de stress déclarer la veille et de se rendre compte qu'il fallait un serfa, je sais pas quoi, pour un petit truc que t'avais payé, etc.
Nous, on est des gens paisibles, voilà, on fait attention.
Mais non, mais j'ai changé, Estelle. Je ne suis plus le même.
C'est bien, Frédéric.
Mais nous, ça fait tellement d'anecdotes à raconter sur comment on a eu un train envers et contre
comment
tout.
Comment t'as eu 5% d'impôts à payer?
Moi, ça me permet de parler des choses essentielles.
Les impôts, je paye, ça me stresse.
Ça me permet de parler des choses essentielles, c'est-à-dire parce que tout le monde sait que je vais arriver à l'heure. RMC s'engage avec vous, c'est dans un instant, avec Amélie Rosy qui a enquêté sur un dépôt illégal de ballast dans une forêt du Gard. Sombre à l'air. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. Sur RMC, pendant l'Euro de foot, il y a tous les matchs.
Et après les matchs, il y a l'after foot.
Et après l'after foot, il y a la libre antenne.
Une heure de foot totalement débridée avec Oussem, Nico, Thibaut, vous au 32-16 et Julien Cazard.
L'after libre antenne intégrale Euro, c'est tous les soirs de match, minuit 30, 1h30 sur RMC.
Renault.
Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement jusqu'à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master, assemblés en France, répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. En ce moment, 2 mois de loyer offert.
Volume selon version, selon stock disponible. Deuxième et troisième loyer offert pour un crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accord DIAC, valable du 1er au 30 juin dans les points de vente participants. Conditions sur professionnel.renault.fr.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Et toi, t'en penses quoi?
Tu sais, moi, je suis pas très foot, mais c'est sûr qu'en bloc médian, il suffisait juste de densifier le milieu de terrain en faisant redescendre un attaquant pour contrôler les demi-espaces.
Je croyais que t'étais pas très foot.
Non, mais je suis très l'équipe.
Ce qu'on entend partout, on le comprend sur l'équipe. Accédez à tous les contenus en illimité, ainsi qu'à l'équipe Live Foot, la nouvelle chaîne 100% foot. Abonnez-vous à partir de 6,99€ par mois sur l'équipe.fr.
Vous écoutez RMC.
RMC. Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Saint-Malo et ses environs. RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio.
Dans moins de 60 secondes sur RMC,
RMC s'engage avec vous.
BMW. Envie d'une BMW d'occasion certifiée par des experts et disponible immédiatement ? Rendez-vous chez votre concessionnaire BMW et profitez d'un taux exceptionnel de 0,9% sur une large sélection de modèles.
Crédit au taux de 0,9%, offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2024, limité à 875 dossiers sous réserve d'acceptation par BMW Finance. TAEG fixe sur 48 mois, 320€ par mois pour 15 000€ maximum emprunté. Montant total du 15 427,24€. Conditions sur BMW.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Si vous nous rejoignez sur RMC, les hommes valeurs français sont en train de faire un truc de fou. Ouais, le but ! Allez ! On est championnat! Kim Min-jo qui fait une erreur et Riner qui pousse vers l'arrière, Ouazari! Riner, le roi de Bercy, 8ème victoire!
Oui! Oui! Allez, monsieur! Tu es grand! C'est fait, les Bleus sont en finale mondiale!
Bravo, mesdames! Vous avez été énormes! La 3ème étoile, l'équipe de France est championne du monde de handball! Championne du monde!
Vivement les Jeux Olympiques sur RMC. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 13h51 et c'est l'heure de vous aider avec Amélie Rosic.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et c'est une sombre affaire que vous nous révélez aujourd'hui. Amélie Rosic, vous nous emmenez dans le Gard à la découverte en fait, d'un dépôt sauvage.
Absolument, dans le parc national des Cévennes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique.
Oui.
Florian est agriculteur à Saint-Christol-les-Alès. Il cultive notamment la vigne et les oliviers. Par un beau matin d'avril, il se promène à côté de chez lui. Et puis, il découvre que le petit bois d'à côté s'est transformé en décharge de ballast. Le ballast, c'est celle, vous savez, ce sont ces... espèce de grosse pierre concassée qu'on retrouve sur les voies ferrées, écoutez.
Je serais venu il y a un an, il y avait des biches dans ce bois-là. Et c'était un bosquet qui était complètement fermé par les arbres, par des ronces, par la nature. Et ça me tient à cœur, très très à cœur, cette terre-là, parce que mon grand-père était maraîcher à quelques mètres d'ici. J'ai mes terres qui sont juste à côté. J'ai toujours vécu ici. J'ai l'amour de cette terre-là.
Après, c'est des pierres, c'est pas très grave.
Alors oui, c'est des pierres, mais qui sont un petit peu polluées, un petit peu. C'est-à-dire c'est sous les voies ferrées quand même. C'est d'accord. pas top. Bon, par ailleurs, à 6 km de là, la SNCF fait effectivement des travaux de rénovation de rails en gare d'Alès. C'est là visiblement que proviendraient ces monticules de ballast. Il y en a pour environ 500 tonnes quand même, noires de suie, visiblement polluées donc. Et c'est pour ça que Florian nous a contactés.
Je suis inquiet car il va y avoir la pollution qui va aller à l'intérieur de la terre et ça va polluer nos nappes phréatiques à l'intérieur. C'est de l'or, l'eau c'est de l'or. On n'a pas beaucoup d'eau donc quand on en a, on est très content de l'avoir.
Amélie, c'est légal ça d'entreposer du ballast n'importe où ?
Alors non, c'est pas du tout légal. Il faut une autorisation, même si c'est un terrain privé. Alors, avec Guillemette Franquet, on a mené notre petite enquête. La SNCF d'abord nous assure que le ballast a été vendu à un particulier via une entreprise.
Pourquoi on achèterait du ballast ?
Parce que visiblement, le monsieur qui possède ce terrain voulait faire un chemin de ballast que j'imagine. J'ai pas regardé les prix, mais à mon avis, ça doit pas être très cher le truc.
On a dit qu'il te paye pour que tu le prennes.
Ouais, voilà. Mais bon, la SNCF nous certifie en tout cas que le ballast ballast, quand il est vendu à donc cette entreprise, il est en fait dépollué. Résultat, derrière, les pierres sont pas dangereuses ni toxiques. Et donc, effectivement, ce propriétaire, voilà, voulait s'en servir pour faire son petit chemin. Sauf que son terrain, à ce propriétaire, il est agricole et il est en zone rouge inondation. Et la loi est très claire. En fait, elle interdit tout dépôt de matériel qui est susceptible d'être emporté ou de gêner l'écoulement des eaux en cas de crue, évidemment, parce que c'est dangereux.
Et donc, le propriétaire est en infraction.
Exactement. Alors, il nous a expliqué qu'il n'avait pas conscience qu'il s'était mis en état d'infraction, mais en tout cas, c'est bien lui, puisque une fois vendu, la SNCF n'est plus responsable du ballast. C'est en tout cas ce qu'elle nous dit. Nous avons expliqué tout ça au propriétaire en lui disant qu'il ferait mieux de l'enlever. Il nous a promis de le faire dans les jours à venir, mais de toute façon, a priori, il va y être contraint, puisque suite à notre intervention, la mairie a porté plainte. Et c'est une information RMC, une enquête a été ouverte par le parquet d'Alès pour atteinte à l'environnement, qui est un délit quand même puni de 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc,
c'est beaucoup quand même.
Si vous avez un terrain que vous vous dites « je vais faire un petit chemin pour pas cher avec du ballast », réfléchissez-y à 2 fois quand même, parce que vous risquez de vous mettre en infraction.
Non, c'est pas très sympa pour la personne qui a acheté du ballast, elle ne le savait pas. Enfin, c'est quand même...
Nul n'est censé ignorer la loi, ma chère Estelle.
D'accord, ok, mais bon, franchement, vous êtes en train de trouver sur quelqu'un qui a fait un pauvre chemin, là.
Non, mais attention, le délit est puni de 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Là, si le monsieur, il l'enlève dans les 3 jours, toutes les charges vont être...
Elle doit enlever 3 tonnes de ballast, ouais, oui.
Ah bah ça, voilà, avant de détruire un bosquet et d'y mettre du ballast. Non mais franchement, pardon, mais c'est infâme.
Bah c'est infâme, j'en sais rien, les goûts et les couleurs, vous savez, je...
Non.
Non mais moi je le ferai pas chez moi.
Bon bah voilà.
Ça m'aiderait pas à l'esprit, c'est mais il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas chez moi, vous voyez, et que des gens trouvent bien. Donc en fait voilà. Non mais moi je pense qu'on soit faux, monsieur.
Mais il n'y a pas du ballast pour faire un chemin qui conduira.
Non mais je n'habite pas non plus dans un sous-bois. Enfin donc on n'est pas. Enfin pardon. Mais je veux dire le problème ne se pose pas dans un appartement du ballast. Oui non ça n'irait pas. Non. Tu vois. Non bah bon. Non. Mais donc là.
Non mais même dans un sous-bois.
Non mais là le gars il sait même pas. Il se dit tiens je vais faire un chemin pas cher. En plus il se dit tiens je vais recycler. Ça se trouve, il s'est dit, c'est génial, je vais faire un truc écologique, je vais recycler du ballast, et il se retrouve avec 2 millions d'amendes.
Alors, je vais redonner quelques éléments. Estelle, tu inventes. Il s'est pas dit qu'il allait recycler du ballast.
On lui a pas demandé.
Non, non. Déjà, premièrement, les habitants d'à côté, notamment le petit maraîcher qui a sa vigne, est allé le voir dès le départ. Est allé voir dès le départ pour lui dire, cher monsieur, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Derrière, le maire l'a contacté. Et je ne vous donne pas les détails de notre conversation téléphonique, enfin, de celle de Guillemette Franquet avec ce monsieur, mais elle était pas hyper cordiale.
Ah. Bon, bah alors vous avez bien fait. Très bien. Amélie Rosic, tous les jours, 13h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on va parler de ces 84% de Français qui réclament davantage de protection contre la fumée du tabac. Est-ce qu'il faut interdire la cigarette dans l'espace public? Dites-nous tout au 3216 ou sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h04, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau, avec la militante associative Anne-Sophie Saint-Père et le journaliste Fred Hermel. On est avec vous également au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir au nouveau Front Populaire qui souhaite rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, bonne ou mauvaise idée. On parlera également, à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, 84% des Français réclament davantage de protection contre la fumée du tabac. Faut-il interdire la cigarette dans l'espace public? À 14h30, ce sera RMC Conso. On vous dira comment faire pour réduire la facture de votre mariage. Parce que oui, le mariage, ça peut coûter très cher. Et puis, il y aura les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Et on parlera notamment de l'audience du jour, l'audience du match des Bleus, premier match de l'Euro 2024. Bon, c'était pas mal pour TF1, certes, mais c'est beaucoup moins que les années précédentes pour un premier match dans l'Euro. On en parlera.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le souhait du jour et c'est celui du nouveau Front Populaire qui envisage de rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, en cas de victoire aux législatives. Cet impôt avait été remplacé par Emmanuel Macron en 2018 et remplacé donc par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça pourrait rapporter combien, Rémi?
Alors, le président de la République, il faut le savoir, à l'époque, justifiait son action en précisant que l'ISF coûte cher à nos entreprises et à notre économie et qu'il conduit des centaines de contribuables à s'expatrier chaque année. Sur ce dernier point, c'est très discuté par les économistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un manque à gagner. En 2017, 360 000 ménages étaient redevables de l'ISF, l'impôt sur la grande fortune. Un an plus tard, lorsque cet ISF a disparu, qu'il a été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il n'y avait plus que 133 000 foyers qui étaient acquittables. Les recettes fiscales ont donc tout naturellement plongé. Un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros en 2022, selon France Stratégie. France Stratégie, c'est une institution qui dépend de Matignon. Reste qu'en de nombreux endroits en Europe, la tendance, elle est bien à la disparition de l'ISF. Les Pays-Bas, qui l'avaient instauré en 1894, l'ont supprimé en 2001. Avant cela, l'Autriche l'a supprimé, l'ISF, en 94, le Danemark en 1995, l'Allemagne et l'Irlande en 1997, la Finlande et la Suède y ont mis fin en 2006 et en 2007. Et en 2021, tendance différente. Il y a eu rétablissement d'un ISF, d'une forme d'impôt sur la grande fortune en Norvège. Et là, il y a eu une fuite évidente des capitaux des personnes qui étaient assujetties à cet impôt.
Alors, le nouveau Front populaire qui veut rétablir l'ISF, pour ou contre Thierry Moreau ?
Alors, l'ISF cristallise beaucoup de choses parce que c'est trois lettres qui repoussent ou qui, au contraire, entraînent de l'adhésion. Moi, je pense qu'on a un problème de répartition de la richesse aujourd'hui en France. Il est anormal qu'aujourd'hui, les plus riches des Français soient imposés à environ 2% de ce qu'ils gagnent, alors que les tranches supérieures, les tranches supérieures des cadres sup, c'est 45%. Donc ça, c'est pas juste. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est inentendable par les Français. Donc, il faut une meilleure répartition de l'imposition et notamment taxer les plus riches. Est-ce qu'il faut l'appeler ISF ? Je suis pas sûr. Rappelez-vous, aux États-Unis, entre les années 30 et les années 80, les plus riches, alors ça concernait très peu de monde, certes, mais les plus riches étaient taxés entre 70 et 94%. Et pourtant, c'est pas des bolcheviks. Donc, je pense que aujourd'hui, où les Français, et on l'a vu dans nos précédents débats, ils ont plus confiance dans le politique. Ils trouvent que il y a une déconnexion entre les politiques et nous. Je pense que ce genre de message, même si ça ne rapporterait pas énormément d'argent, ce serait un message d'honnêteté citoyenne, de contribution à la chose commune de la part des plus riches, qui serait tout à fait entendable. Et donc je suis pour, mais je ne l'appellerai pas ISF. Je trouvais un autre nom parce que ça cristallise trop de combats politiques.
Alors, il y a l'ISF, mais il y a aussi l'idée de taxer plus aussi ceux qui gagnent plus de 4000 euros et, et de mieux taxer également l'héritage.
Donc, ça fait plus de tranches.
Donc ça fait, voilà, il n'y a pas que l'ISF,
pas que
en fait.
Mais votre question concernait ce point.
Exactement. Est-ce que vous trouvez ça finalement normal de taxer plus les riches, donc à la fois sur leur patrimoine et à la fois sur ce qu'ils gagnent, Anne-Sophie Saint-Père?
Oui, moi je pense que c'est une mesure qui est à la fois financièrement faisable et politiquement très souhaitable pour les raisons que je viens d'exposer Thierry. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est plus taxé sur des salaires, des revenus, alors que les personnes extrêmement riches, on parle de personnes qui ont au-delà de 10 millions de patrimoine, vont plutôt se rémunérer avec des dividendes, où il y a des possibilités d'évasion fiscale énormes en les passant par des holdings. Et donc, en fait, ça donne une situation où, concrètement, des gens qui ont des revenus, même des salaires très élevés, vont payer jusqu'à 50% de leurs revenus en impôts, alors que, pour des millionnaires, ils seront, c'est le taux effectif, c'est les chiffres de Gabriel Jugman, ils seront taxés beaucoup moins proportionnellement, je crois que c'est de l'autre, de 27% tout compris, mais ça crée une impression d'injustice extrêmement forte. Et si on regarde les taux qui sont proposés pour cet impôt sur la fortune, dont on pourrait changer le nom, effectivement, pour arrêter de se crisper dessus, on est sur des taux de 1% au-delà de 10 millions d'euros, de 2% au-delà de 20 millions et 3% à partir de 30 millions. Et là-dessus, on pourrait gagner 20 à 30 millions de recettes fiscales. Ce ne serait pas un ISF comme, exactement comme le précédent, parce qu'il y a plein de choses à réajuster pour éviter les effets de contournement, les niches et les évasions. Mais ce serait un impôt de justice fiscale qui montrerait que les revenus du capital sont taxés également. Par ailleurs, c'est quelque chose qui se discute dans d'autres pays. La Norvège l'a rétabli. Il existe au Luxembourg. Biden a mis sur la table une billionaire tax. Et puis, il faudrait qu'il soit accompagné d'une exit tax pour éviter les effets de fuite. Et là encore.
Non, mais attends un moment, excuse-moi. Mais pardon, mais. La personne qui a son entreprise en France et qui a envie d'échapper à cet impôt parce qu'elle le trouve injuste et qui part en Allemagne, oui, tu vas pas en plus le taxer, quoi.
Alors, par exemple, cette exit tax, elle existe aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous êtes né aux États-Unis, toute votre vie, vous devez vos impôts aux États-Unis.
Même si vous voulez aller
en France. L'impôt aux États-Unis est bien moindre.
Et si vous avez une carte verte pendant 8 à 15 ans, vous avez aussi une exit tax quand vous partez.
Mais l'impôt aux États-Unis est deux fois moindre qu'en France.
Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, ça existe, c'est des systèmes qui existent et par ailleurs, j'ai perdu le fil de mes pensées, mais si vous avez fait fortune en France, c'est normal aussi de payer des impôts en France parce que vous avez fait fortune.
Et personne ne dit que c'est pas normal de payer des impôts.
Oui, mais du coup, si vous déménagez pendant une certaine période, vous continuez à payer vos impôts parce que vous avez bénéficié de salariés qui ont été formés en France, parce que vous avez voulez bénéficier de salariés qui ont été soignés en France. Mmh. Et voilà, c'est énorme, c'est de la contribution. Et en 2023, je crois qu'il y a 200 millionnaires de 13 pays différents qui ont écrit au G20 pour demander à être plus taxés. Parce qu'aujourd'hui, mondialement,
il y en a des Français. Pas des millionnaires, des multimillionnaires. C'est pas du tout
pareil. Mais là, on parle
c'est
de
pas pareil
gens...
d'avoir 100 millions ou d'avoir 1 million. C'est pas du tout pareil.
Oui, mais là, on parle de gens à partir de 10 millions. Et vrai, et c'est aussi c'est une question de paix sociale. C'est une question de paix sociale aujourd'hui, qui est plus ce sentiment d'injustice. Quand on travaille, on est plus taxé sur son salaire que quelqu'un qui va se rémunérer sur des dividendes en les faisant passer par une holding via une société mère.
Je suis d'accord avec toi, sauf que là, le nouveau Front Populaire, il veut aussi augmenter, encore une fois, les impôts de ceux qui gagnent plus de 3 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la double peine. C'est-à-dire que mettons, tu gagnes, je te dis pas, tu gagnes 100 millions, il y a pas de problème, mais si tu gagnes 6 000 euros et que tu as un petit peu de patrimoine, tu seras à la fois plus taxé sur tes impôts, alors que 6 000 euros, t'es déjà à une tranche très très supérieure. Et ensuite, tu seras taxé aussi à l'ISF si tu as eu le malheur d'acheter un appartement il y a 20 ans, il y a 20 ans à Paris. Donc en fait
mais tu vas être doublement taxé. L'appartement, c'est déjà dans l'impôt sur la fortune immobilière. Moi, je pense que justement, c'est intéressant de sortir de ce tout immobilier pour aller vers la fiscalité des dividendes et
donc
des actions.
Donc, tu peux plus épargner, alors.
Et par ailleurs, personne n'épargne, enfin, personne. Dans les gens de Normand, on n'épargne pas 10 millions. Ça concerne
100 000. Tu as aussi ton habitation, personne n'a 1 million d'épargne.
Alors, dans ces cas-là, mais l'impôt sur la fortune immobilière, il existe déjà. Et par ailleurs, on peut aussi prévoir des abattements. Ensuite, là, tu me posais la question sur l'ISF. Mmh. Je réponds sur l'ISF. Mmh. Sur la progressivité des impôts sur le revenu, c'est un tout autre débat sur lequel il faudrait se pencher. Mais sur l'ISF, moi, je pense que vraiment. Et d'ailleurs, j'ai reçu à aller regarder plein de sondages, la majorité des Français est pour. On a besoin de justice fiscale aujourd'hui.
Oui. Non, mais d'accord. Alors après, t'es la première à dénoncer certains de nos sondages. Donc, est-ce qu'il faut gouverner avec les sondages? Ça, c'est encore une autre.
Non, mais je pense que là, aujourd'hui, débat. En termes d'apaisement, ce sera un signal.
Fred Hermel, est-ce que, justement, selon vous, cette ISF est de nature à faire partir certains patrons, on va dire?
Oui, c'est-à-dire que moi, en matière de finances publiques, je n'ai pas de dogme, en fait. Je suis très pragmatique, en fait. Moi, ce que je veux, c'est que ça rapporte et qu'on puisse financer ce pays, quoi, les infrastructures, la sécurité, l'école, les hôpitaux. Enfin voilà, moi j'ai envie que ce pays reste un grand pays et qu'il protège ses citoyens. En fait, ça n'a pas marché, l'ISF. Voilà, c'est tout. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas rentable. Moi, je suis pour qu'on taxe vraiment les ultra riches. Franchement, si on commence à taxer les gens qui gagnent 4 000, enfin, c'est très rapide. Un foyer fiscal de personnes qui travaillent arrive à 4 000 euros, ça va très vite.
Apparemment, c'est ceux qui, enfin, un revenu.
C'est un revenu.
Ouais, mais même 4 000.
Oui, non. Enfin,
souvent, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui, à 50 ans, gagnent 4 000 euros.
C'est pas la majorité des Français. Non, la majorité gagne en dessous.
Mais ce sont pas des riches non plus, quoi. Et ceux-là, ils sont hyper taxés au niveau de l'impôt sur le revenu.
Selon, je crois que c'est l'Observatoire des inégalités, on est riche à partir de 3 860 euros par personne.
Mais justement, là, l'idée, c'est parce que les revenus sont beaucoup taxés, donc il faut aussi taxer le capital. Aussi,
donc, c'est-à-dire que, soyons pragmatiques, si ça marche SF, ok, mais on a bien vu, depuis des années, depuis Mitterrand, en fait, c'est depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc il y a espèce de dogme, en fait, c'était la révolution qu'a représenté l'arrivée de la gauche au pouvoir le 10 mai 81. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce... Aujourd'hui, nous sommes dans une économie totalement globalisée et que c'est hyper facile d'aller ailleurs et d'installer ton entreprise ailleurs. Donc, moi, je suis pour. Mais si, en fin de compte, c'est rentable. Et ça prouve que ce n'est pas rentable. Si on perd des gens qui s'en vont à l'étranger, notamment parce que c'est très facile, par exemple, d'aller en Belgique. Les familles qui ont beaucoup d'argent dans le Nord, elles habitent toutes en Belgique, notamment pour les questions d'héritage et de succession. Ils font 10 kilomètres et ils habitent en Belgique. Ils habitent en Flandre. En Belgique, c'est à côté. Donc c'est, à partir du moment où il n'y a pas d'harmonie fiscale européenne, c'est impossible de faire ce genre d'impôt. Moi, je suis pour une refonte de l'administration fiscale. Pas d'administration parce qu'elle fonctionne très bien. Enfin, des bases, des barèmes. Il y a beaucoup plus de progressivité.
Mais tu peux pas demander, allez, on va dire, à quelqu'un qui gagne, je dis n'importe quoi, mais allez, 6 000 euros par mois, à la fois d'augmenter son salaire et l'ISF. Tu fais l'ISF très bien, mais dans ce cas, tu vas pas lui demander d'augmenter encore ses impôts.
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de gens qui vont être concernés par ce cas de figure, en fait. Les gens concernés par l'ISF, en fait, ils se rémunèrent très peu par revenu et beaucoup plus par actions et dividendes. Et par ailleurs, sur la question des actions, effectivement, l'ISF, il faut qu'il y ait une exit tax avec.
Oui. Après, sur la question de j'ai perdu le fil. Tu m'as coupé, mais
de l'ISF et des revenus. En tout cas, vous êtes nombreux à nous appeler.
C'était très intéressant
débat.
Pourtant.
J'imagine. On va commencer avec Thomas qui nous appelle de Paris et qui est gestionnaire de patrimoine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ça va vous donner du boulot, hein, cette ISF.
Ah ouais, non, mais là, alors là, c'est une connerie, mais alors là, je peux vous garantir. Vraiment, si vous faites ça, vous êtes tranquille. Vous aurez, comme vous dites, une partie de la population qui va partir. Ça, c'est sûr. Une partie des richesses qui vont partir. Et c'est complètement contre-productif. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez une personne qui est taxée en ISF tous les ans, par exemple, à 20%, ou alors, je ne sais pas quel taux d'imposition veut mettre le Front Populaire là, avec leur ISF. Ou alors, est-ce que vous voulez quelqu'un qui, tous les ans, grâce à ce qu'il gagne, puisse réinvestir soit dans des sociétés, soit dans le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle il est? Est-ce que vous, il y a un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. L'ISF est complètement contre-productif. Faire fonctionner, parce que en plus cet impôt ne retourne pas ensuite aux sociétés, il retourne au fonctionnement de l'État, et c'est pas forcément la meilleure
idée.
Voilà. Donc, si on veut réellement faire quelque chose d'intelligent, continuons avec l'IFI qui est là, qui voilà, parce qu'on sait que la valeur immobilière, elle est là, on peut taxer, c'est des valeurs refuge, voilà. Mais l'ISF sur les valeurs où les gens peuvent travailler au quotidien avec et développer leurs entreprises grâce à l'argent qu'ils ne mettront pas justement dans cette ISF, ben voilà, ça c'est une vraie solution. Enfin, je peux comprendre que...
Dans vos clients, vous avez, Thomas...
Des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Oui, on peut parler des familles Arnault, enfin voilà.
Il y a 43 milliardaires en France.
Mais c'est tout. Bon, quel est le pourcentage de réinvestissement qu'ils font tous les ans? C'est peut-être ça aussi la question qu'il faudrait poser. Ces gens-là font vivre la France, ils font travailler combien de personnes en France?
Non, mais ceux-là, les milliardaires, Thomas, encore une fois, si on leur prend 2 ou 3% de plus, ils verront pas trop la différence. Le problème se pose pour ceux qui sont en dessous et qui sont riches sans être ultra riches. C'est-à-dire, j'imagine la majorité de vos clients. Mais Thomas, est-ce que vous avez des clients qui aujourd'hui vous disent, si à l'ISF, je pars?
Tout à fait.
D'accord.
C'est déjà, je connais même des clients qui, depuis la création du Front Populaire et la mise en place de leur proposition, ont dit, qu'est-ce que ça sert de rester, ça sert à quoi de rester ici si on se retrouve, entouré que d'extrêmes? Et voilà la réflexion générale qu'on me donne en ce moment.
En tout cas, parmi vos clients très aisés. Merci Thomas, en tout cas, de nous avoir donné votre avis. Ça donne quoi sur l'application RMC, Rémi?
Ce message de Guillaume qui nous dit l'ISF, c'est avant tout un impôt symbolique dont l'inefficacité, selon lui, est bien établie. Il s'agit principalement d'un moyen de canaliser la frustration populaire envers les riches perçus comme ayant forcément triché ou exploiter les autres.
Alors après, c'est pas inefficace, hein, parce que tu l'as rappelé, Rémi, il y a effectivement un manque à gagner depuis qu'il n'y a plus l'ISF de 4 milliards et demi d'euros.
Tout le débat est là, c'est très discuté, franchement. Un peu ce matin quand même sur le sujet. Il y a autant d'économistes qui disent que ça rapporte de l'argent, mais ça fait fuir un certain nombre d'administrations.
Donc à terme, ça fait perdre de l'argent.
Et voilà, il y en a d'autres qui disent que ça ramène quand même de l'argent, que la fuite n'est pas si massive. Bon, voilà, c'est très discuté, et c'est pas pour rien.
On en a beaucoup débattu ce matin.
Et c'est pas pour rien si ça reste un débat, c'est un serpent de mer depuis des années, des décennies, même en France.
Notre invitée sur ce débat, c'est Anne-Laure Delatte. Elle est chercheure en économie au CNRS. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on s'écharpe sur l'ISF là, depuis quelques minutes. Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous, le retour de cet impôt sur la fortune?
En fait, j'ai écouté votre débat et c'est hyper intéressant. Pour moi, le principal argument contre, c'est le fait qu'il y a des gens qui vont partir. En fait, il n'y a pas de fatalité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Vous avez une des débatteuses qui a parlé d'exit tax. J'aimerais expliquer ce que c'est, en fait. L'idée, c'est que si vous remettez un impôt sur les patrimoines et qu'effectivement, vous n'empêchez pas l'exil fiscal, alors vous allez avoir des gens qui vont partir en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, comme vous venez de le dire. Oui. Mais on a une exit tax depuis 2012. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas mise en place. C'est quoi l'exit tax? Ça permet au fisc français d'aller collecter la différence d'impôt auprès des gens qui sont partis pour des exilés fiscaux. D'accord? Donc, moi, j'ai beaucoup de patrimoine. Je ne veux pas payer l'impôt sur les patrimoines. On parle pas des revenus. Sur le patrimoine en France, je pars en Suisse. Et en réalité, le fisc suisse fait un échange automatique de données avec le fisc français. Donc, le fisc français a même pas à aller chercher l'information. Il la reçoit, il me repère et je dois payer la différence. Et ça c'est mis en place depuis 2012. Il y a eu pas mal de niches fiscales qui ont fait que, vous voyez, des niches fiscales, ça permet d'éviter ce genre de truc, d'exempter. Mais en réalité, si on réforme cet exit fiscal, il n'y a pas de fatalité.
Alors attendez, mais Anne-Laure Delatte, excusez-moi, je suis votre raisonnement. Je m'appelle n'importe X. J'ai, admettons, un appartement de 2 millions d'euros à Paris. Et non, et, pas non, pas de problème. Et une résidence secondaire de 3 millions dans le sud de la France. Très bien. Je décide de partir en Belgique. Je vends mes biens. Je vends mes biens parce que je pars. Je pars en Belgique avec avec mes 5 millions d'euros. Je suis désolée. Je paye plus de taxes foncières en France. Je paye plus de taxes d'habitation avec ma résidence secondaire. Et j'ai pris tout mon argent pour aller en Belgique ou en Suisse. Et vous pourrez pas me taxer. Mais il y a pas des dites taxes dans ces cas-là. Donc en fait, et j'ai pris évidemment.
Je peux me permettre de vous couper. Évidemment qu'il y a des dites taxes parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est que, alors d'abord, les seuils dont on parle pour l'instant, c'est plutôt 10 millions d'euros. Donc on est en train de parler de gens qui ont
d'ultra riches. Ben voilà, ben ça, on est d'accord.
On parle de 10 millions d'euros, ça commence à 1% pour 10 millions d'euros. Enfin, il n'y a pas, attendez, il n'y a pas vraiment exactement les précisions aujourd'hui, mais nous, c'est ce qu'on a en tête, les économistes, parce que c'est Zucman qui dit ça. Gabriel Zucman, un économiste français qui était aux États-Unis avant. Donc lui, il dit, on taxe 1% sur les 10 millions, on taxe 2% sur ceux qui ont plus de 20 millions, on taxe 3% sur ceux qui ont plus de 100 millions. Donc on commence à parler de très peu de gens. Maintenant, dans votre exemple, la personne qui vend ses actifs immobiliers, il les transforme en actifs mobiliers, c'est-à-dire qu'il va les transformer en actions, il va les placer. Évidemment, c'est alors on va dire que
elle va acheter un bien aux États-Unis ou en Belgique.
Oui, et bien comme il était contribuable français pendant un certain moment, il est redevable au fisc français, quelle que soit la forme de son patrimoine. Ça, c'est les États-Unis le mettent en place depuis des années, en fait, depuis les années 30. Là, l'exit tax ne serait appliqué que sur le patrimoine, si on réformait cette exit tax.
Ok. Alors,
en tout cas, moi, c'est ce que je comprends.
Eh ben, écoutez, très bien, Anne-Laure Deuatre, restez avec nous parce qu'on a Ludovic, tiens, qui est en ligne. Ludovic, qui nous appelle du Finistère, il nous appelle de Guiclan et il est chef d'entreprise. Bonjour Ludovic.
Bonjour Estelle.
J'ai l'impression que ce retour de l'ISF vous fait peur, Ludovic.
Ah mais complètement. Moi je vais être très clair. Si l'ISF revient, je me barre.
Ah bah oui, mais vous payez une exit tax.
Non. Je partirai plus loin. Mais voilà, il est hors de question, ça suffit, on paye déjà assez comme ça. Moi je donne 58% de ce que je gagne tous les mois, je le donne à l'État. Hein. Quand je vois ce qu'ils en font, c'est pas la peine. Donc ça suffit, stop.
Ludovic, vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros ?
Non, j'ai pas, malheureusement, non.
Bah, du coup, c'est bon, vous n'êtes pas concerné.
Oui, mais on parle pas. En fait, l'ISF, excuse-moi Anne-Sophie, c'est à partir d'1,3 million. Donc voilà, le problème est réglé. C'est pas 10 millions. Hein. L'ISF, c'est 1,3 million. Le barème n'est pas révisé par rapport à. En fait, Emmanuel Macron a supprimé. Le barème est à 1,3 million. Il ne change pas le barème. Étant donné que les prix de l'immobilier, c'est comme pour les filles, mais les prix de l'immobilier ont monté, etc. Je veux dire, et l'inflation étant ce qu'elle est, le barème n'a pas changé. Donc il va concerner sur cet ISF plus de gens qu'avant. C'est déjà, c'est mécanique. Et donc, et c'est pas du tout 10 millions. 10 millions, c'est peut-être l'exit taxe, mais l'ISF en elle-même, c'est 1,3 million avec 30% d'abattement sur la résidence principale. Vous êtes dans
Vous parlez d'IFI, du coup.
De quoi ?
Vous parlez de l'impôt sur les fortunes immobilières.
L'ISF, c'est déjà pareil. Et Ludovic, vous êtes dans cette situation, vous ?
Ah, tout à fait, ouais.
Mais donc, vous payez un IFI, quand même ?
Rien du tout. Parce d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités qui font que je ne le paye pas, mais je ne suis pas loin de le payer. Tout à
d'accord.
Fait.
Et vous refusez de payer un impôt supplémentaire ?
Je refuse de payer un impôt supplémentaire. Ça, c'est clair. Et je vais même vous dire mieux, vous parliez de la Belgique, mes parents sont frontaliers, je suis prêt à soit traverser la frontière d'un côté, soit à traverser la Manche de l'autre.
Ouais. C'est dur ce que vous dites quand même, Ludovic, vous seriez prêt à abandonner votre pays ?
Ah mais complètement. Mais alors, moi j'aime bien parce que là on les entend tous, hein, les rigolos de la politique, là. On a aidé les entreprises, patati patata. Que dalle. Moi, j'ai rien eu. J'ai fait mon entreprise tout seul. Et l'année dernière, je donnais 38%. Là, je suis arrivé à 58% entre les charges et les impôts, sociétés et compagnie. Je travaille seul. Je travaille 6 jours sur 7, entre 17 et 18 heures par jour pour essayer de payer les études de mes enfants, me payer une belle maison. Oui, j'ai une belle maison parce que je travaille pour. Donc voilà. Et me mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Je cotise pour du Pôle emploi, machin, tout ça. Demain, je me retrouve au chômage. Je n'ai le droit à rien.
Et oui, vous êtes indépendant.
Ça suffit. Je suis indépendant, ça suffit. Moi, je rêve, vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est très, très dur. Moi, je rêve qu'on arrive à un système comme aux États-Unis où celui qui travaille, eh ben, on le valorise et on l'aide et il s'en sort. Et celui qui travaille pas, eh ben, il se démerde. Parce que ça commence à bien faire.
Oui, ah, c'est oui, je comprends et j'entends votre colère, même votre tristesse, Ludovic. Après, on est un pays social, on est un pays où effectivement, bah, on aide ceux qui n'ont rien et ça fait partie de, voilà, ça fait partie des spécificités de la France et ça nous rend fiers aussi, voilà, de pouvoir aider oui. ceux qui n'ont rien. Je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, les gens qui payent les impôts, même ceux qui en payent beaucoup, ils sont contents de payer des impôts et de participer. Mais c'est rajouter un impôt, je suis pas sûre que même si les gens ne le payent pas, vous savez, c'est comme on l'a fait beaucoup, la taxation sur l'héritage. La plupart des Français ne sont pas taxés sur l'héritage, mais ils détestent l'idée qu'on puisse avoir un impôt sur les successions. Et alors l'ISF, les Français sont plutôt pour, mais quand vous rajoutez un impôt sur l'impôt sur l'impôt, il y a un moment où effectivement on peut aboutir à ce qu'on entend chez Ludovic. En tout cas, merci Anne-Laure Delatte d'avoir été avec nous et de nous avoir explicité l'exit tax, voilà, dont on connaissait assez peu l'existence. Merci beaucoup. On va terminer avec des messages. Rémi sur l'appli RMC, les résultats de notre sondage.
Même tendance pour Théo qui nous dit bonjour l'équipe d'Estelle. Encore une vraie fausse bonne idée facile qu'est le rétablissement de l'USF. On flatte les fantasmes du bas peuple dont je fais partie. Mais je ne tombe pas dans le panneau. Voilà ce que nous dit Théo.
Ben, tu sais, je suis très étonnée de ne pas avoir plus de gens qui sont en faveur de l'ISF. On va voir ce que ça donne quand même sur le sondage.
Ouais, mais les messages ne sont pas représentatifs du résultat final parce que c'est pour le rétablissement de l'ISF. Alors, c'est pas massif, mais quand même, hein, 60% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont plutôt favorables.
Allez, dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. On va parler de cette TVA à 5,5 sur l'énergie. Est-ce que c'est réaliste ou utopique? En tout cas, c'est l'une des promesses de Jordan Bardella. On va se demander si vous seriez prêt à acheter de la seconde main Chine. On va demander à Anne-Sophie, ce qu'elle en pense. C'est de la seconde main quand même, Sophie. Et puis, on va parler de l'équipe de France de foot hier. Est-ce qu'elle vous a séduit ou pas, cette équipe de France? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Et voici tout de suite le zapping, le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Une TVA à 5,5 sur les énergies, est-ce réaliste ou utopique? C'est l'une des promesses faites par Jordan Bardella s'il devient Premier ministre à l'issue des élections législatives. Baisser la TVA à 5,5% sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Une mesure qui coûterait tout de même 17 milliards d'euros aux finances publiques selon le ministère de l'économie.
Oui, c'est une bonne idée, mais la question c'est est-ce qu'on peut le faire? Je crois qu'il y a un économiste qui était passé chez Apolline qui a dit que c'est illégal. On ne peut pas modifier le taux de TVA qui est à 20% sur les carburants. C'est impossible à faire, il faut passer par l'Europe. Mm-hmm. Donc en fait, baisser le taux de TVA à 5,5%, ça ne peut pas se faire. Ou alors il faut un consensus européen. Dire qu'on va toucher à la TVA pour faire rentrer du pouvoir d'achat dans la poche des Français, c'est pas faisable.
Oui, 17 milliards d'euros, ça fait cher quand même, Fred Hermel.
Oui. Alors, je comprends. Alors, on est clairement dans la mesure annoncée juste avant les élections. Hein. Ça, c'est automatiquement parce que ce qui coûte cher, c'est l'énergie depuis surtout de 2 ans à peu près.
Et Bruno Le Maire a promis une baisse de l'énergie de 15%.
Oui, mais il a promis tellement de choses depuis Monsieur Le Maire que oui. Alors, je vois l'effet parce que ça paraît. En fait, c'est une mesure assez simpliste. Ce que tu dis aux gens, bah voilà, on va baisser la TVA à 5,5. Automatiquement, l'essence va coûter beaucoup moins cher. Après, je me méfie aussi des distributeurs d'essence. Parce que ils peuvent quand même fixer le truc. Rappelez-vous avec la baisse de la TVA sur la restauration sous Chirac.
Ah bah oui, mais on n'avait pas vu la couleur.
On n'a pas vu la couleur parce qu'en fait, ça s'est passé dans les marges des restaurateurs. Donc mesure simpliste, électoraliste pour le peuple, mais bon, a priori, ça va être compliqué à mettre en place.
Anne-Sophie Saint-Père, ce serait une bonne idée ou pas?
Alors. Moi, en fait, il y a plein de choses qui me posent question. C'est si on enlève 17 milliards de recettes, qu'est-ce qu'on met comme recettes en face? Parce qu'on a quand même un problème de déficit et puis on a des services publics à financer. Donc, je pense que quand on propose une mesure qui enlève des recettes, il faut proposer une compensation ou alors assumer qu'on va couper dans les dépenses de l'éducation nationale ou de l'hôpital.
Je pense que c'est une relance par la consommation. Voilà. Ils se disent, les 100 euros que tu mettras pas dans l'essence, bah, tu les mettras dans d'autres choses.
Et sauf donc, que 17 milliards aujourd'hui, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a fait une réforme des retraites pour 10 milliards. Donc aujourd'hui, annoncer qu'on a une perte de 17 milliards, c'est beaucoup trop. Donc pour moi, ça me paraît pas très réaliste de ce point de vue-là. Par ailleurs, il y a l'enjeu que c'est sur l'énergie. Et sur l'énergie, je pense qu'il faut aussi avoir une forme de progressivité. C'est-à-dire que ne pas faire payer de la même manière une personne qui a besoin d'essence pour aller travailler, une personne... Mais oui, mais c'est en fait...
Ou alors sur l'électricité,
en fait, on est quand même sur un enjeu où il faut éviter les surconsommations. Et comme il peut y avoir sur l'eau d'ailleurs, de moins taxer les premières consommations et ensuite plus ça augmente, plus on taxe. Mais parce que c'est oui, à la fois un service vital et à la fois un service sur lequel on a besoin de faire des économies en consommation globale. Donc voilà, moi ce seraient mes deux limites. Mais principalement, où est la recette en face, quoi.
Oui, mais tu vas pénaliser les gens qui roulent beaucoup dans les campagnes et c'est pas les plus riches. Donc en fait, si tu commences à...
Non, mais si ça répond à un besoin, c'est tout à fait nécessaire, quoi.
Il faut quand même noter que les partis qui proposent la baisse à 5,5 ne donnent plus de chiffres maintenant. Ils disent simplement on va baisser la TVA sur l'énergie. Ça veut dire que donc c'est une promesse de campagne qui ne sera sans doute pas tenue. Il faut bien l'intégrer. La deuxième chose, c'est que l'aberration, c'est qu'on payait l'énergie pas cher et qu'aujourd'hui, on la paye plutôt au juste prix. Alors, je sais que c'est inentendable pour beaucoup de gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, mais c'est parce que l'énergie était peu chère et qu'on n'arrivera pas... On ne retrouvera pas...
Elle était peu chère grâce au nucléaire qu'on a sabordé.
Tout à fait. Mais on ne retrouvera pas un prix de l'énergie aussi bas que ce qu'on a connu par le passé. C'est impossible. Tous les économistes sont d'accord là-dessus.
Charles Matin, ce matin sur RMC, seriez-vous prêt à acheter de la seconde main Chine? Le mastodonte de l'ultra fast fashion chinois se lance dans le marché de l'occasion en France, une façon de capter les adeptes de la seconde main, sans oublier de séduire les nouveaux acheteurs, comme nous l'expliquait ce matin Emmanuel Le Chypre.
Ça s'appelle Chine Exchange. Alors attention, produits à échanger qui, pour apparaître sur cette plateforme, doivent avoir d'abord été acheté chez Chine la première fois, et c'est facile du coup pour les clients puisqu'ils pourront directement en quelques clics revendre les articles qu'ils ont achetés neufs. L'objectif, c'est l'objectif de répondre finalement aux accusations d'irresponsabilité écolo, vous savez, de la fast fashion. Mais le principal intérêt pour Chine, c'est un, d'empêcher ses clients d'aller voir ailleurs, vous savez, sur les autres plateformes d'échange comme Vinted, etc. Ouais. Mais c'est surtout de masquer un phénomène qui n'est pas apparu au grand jour. Est-ce que vous savez de combien les prix des produits Chine ont augmenté depuis 2023?
Il y a une grosse inflation sur Chine.
Plus 60%.
Enfin, plus 60% d'un euro, ça fait toujours un t-shirt pas cher. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'on a le droit de se laisser séduire par la seconde main Chine? Parce que de toute façon, ça y est, ça a été acheté, donc c'est là.
Ouais, alors moi le premier truc qui me vient en tête, c'est que je me demande dans quel état est le vêtement, parce que je suis pas sûre que ce soit d'une très très grande qualité, hyper solide vu les prix.
J'ai fait un petit sondage ce matin et les avis divergent sur la qualité de Chine.
Ok, alors moi effectivement, je sais pas, j'ai jamais acheté de vêtements Chine, donc je ne sais pas, mais bon, j'ai pas l'impression que, enfin, ou alors sinon je ne comprends pas comment ils font pour écraser ces prix, ou alors sinon ils font travailler des esclaves quelque part, bon, oui, peut-être. Dans ces cas-là. Excellente raison pour dire qu'on boycotte, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire travailler des esclaves.
Mais une fois que c'est là, c'est-à-dire que par exemple, une fois que c'est sur Vinted, la seconde main.
Mais là, ça leur permet aussi de vivre en tant que marque, d'avoir ce truc de seconde main. Donc d'accord. En fait, on revalide ce principe d'avoir un écrasement des prix, de la mauvaise qualité, une garde-robe qui se renouvelle tout le temps. On n'est pas obligé en fait de renouveler tout le temps sa garde-robe.
De verdir un petit peu la marque.
C'est cynique, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que la vente d'occasion se fasse sur un autre site que le sien, c'est-à-dire en gros Vinted, ils ramènent ça chez eux. C'est du marketing. Et du capitalisme.
Parce que je suis quand même allé voir, pour le coup, mais sur Vinted, il y a plein de trucs Chine. Et effectivement, des t-shirts à 1 euro.
Là, ils vont essayer de
recapter. Alors, j'ai regardé les frais de port. Alors, t'es à 2,80 de frais de port, mais ça te fait toujours 3,80 euros le t-shirt. Ce qui est toujours un prix imbattable, sauf s'il est en très mauvais état, bien sûr. Fred Hermel.
Je préfère aller à poil que de porter du Chine.
D'accord. Bon, bah écoutez,
c'est pas grave. Mais alors, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas recours aux esclaves. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne commande pas sur des applications pour mettre la bouffe et tout ça. Non, j'ai un petit principe, je n'ai pas recours aux esclaves. Voilà.
D'accord. Donc, même la seconde main.
C'est tout à ton honneur.
Même la seconde main.
Mais non, parce que Anne-Sophie a commencé à l'expliquer. En fait, la seconde main participe à la première main.
Bah
parce que pour qu'il y ait de la seconde main, il faut qu'il y ait la première main. Donc si tu achètes la seconde main, tu fais fonctionner la première main.
Oui, mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Regarde, tu cherches un t-shirt noir pour une soirée, je dis n'importe quoi. Donc, soit t'as pas beaucoup de moyens. Donc, soit tu vas l'acheter chez Chine. Donc, tu vas acheter un t-shirt neuf qui fera que ça continuera d'alimenter le chiffre d'affaires de la société, etc. Mais si t'achètes un vieux t-shirt Chine, enfin, je veux dire un t-shirt de seconde main Chine, par exemple, sur Vinted ou quoi, eh ben, tu n'alimentes plus la machine.
Oui, mais c'est si tu vas dans une friperie, tu vas trouver ton t-shirt noir d'une autre marque qui n'a pas eu
d'accord, mais
des
si c'est un Chine, tu prends ou pas?
Ah, mais non, moi, je prends pas ce genre de choses. Non, mais non, je regarde l'étiquette.
Okay.
Moi, maximum, que je puisse, je regarde l'étiquette et ça va jamais au-delà du Maroc, quoi.
D'accord.
Non mais c'est vrai quoi.
Très bien, j'essaye.
Enfin après c'est évident qu'il y a des t-shirts qui viennent de Thaïlande, qui viennent de trucs. Mais c'est vrai que je regarde les étiquettes quoi. C'est...
Eh ben écoutez, bravo Frédéric. Oh, l'intégrale Euro 2024 hier, l'équipe de France vous a-t-elle séduit hier soir? L'équipe de France fait son entrée dans la compétition européenne face à l'Autriche et a battu l'Autriche donc 1-0 grâce à un but contre son camp, un défenseur autrichien. Un événement que vous avez pu vivre en direct sur RMC avec au commentaire Jeannot Rességuet.
Mbappé côté droit, Mbappé qui va tenter de dribbler, de centrer.
Yeah,
oui, contre yeah son camp, le but de Weber contre son camp sur le débordement de Kylian Mbappé qui est allé chercher la tête de Griezmann. Le ballon est venu au premier poteau. Weber a regardé Griezmann, n'a pas regardé le ballon et il a fini par la mettre au fond de ses propres filets. L'équipe de France est toute heureuse d'ouvrir la marque avec ce but de Weber contre son camp.
Anne-Sophie Saint-Père, vous avez regardé le match hier?
Non, c'est ce que j'expliquais, j'étais au resto avec une amie. Mais au bar d'à côté, il y avait des gens qui regardaient quand même.
Fred Hermel, on est séduit ou pas par cette équipe de France? C'est un peu plan-plan, j'ai failli aller me coucher avant la fin là.
Ah mais c'était pas bien du tout. Franchement, c'était pas bien du tout.
Il n'y a pas d'engouement toi, cet euro. On a l'impression qu'il n'y a pas d'euro.
Je voudrais... On va me le reprocher, mais je suis obligé de le dire.
Vas-y.
Je pense que les déclarations électorales des joueurs ne servent pas la cause de l'équipe de France.
Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire?
Je pense que c'est pas... Voilà, on a...
Ces moi, ça m'a pas empêché de regarder le match.
Ces derniers jours, on a plus parlé des déclarations politiques des joueurs que du match. Et c'est pas bon.
Oui, mais après, c'est...
Et j'écoutais...
On parle de politique, depuis que... Parce que...
Oui, d'accord. Non, mais c'est...
On parle de politique.
C'est la première fois que la veille d'un match, le capitaine de l'équipe de France parle politique. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire d'une grande compétition.
Oui, mais enfin, c'est assez rare qu'il y ait des législatives juste avant le premier match de l'Euro.
Et moi, je suis d'accord avec mon ami Dugarry qui parlait chez Jérôme Otten hier, qui parlait justement de ça, quoi, en disant que c'est pas très très bon en fait. Il faut laisser le sport au sport. Je sais que le foot est profondément politique, pas au moment de la compétition, ça, pas au moment où tu joues. Quoi.
Mais c'est pas ça qui a fait qu'on s'est un peu ennuyé devant le match. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je pense que tout ça, et voilà, je pense que quand tu es un professionnel du football et que la veille d'un match, tu parles d'autre chose que du match, je pense que tu n'es pas totalement concentré sur le match. Ah.
Ça explique le mauvais match.
Comment?
Ça explique le mauvais match.
Non. Moi, je trouve que l'équipe de France, il y a quand même plein de joueurs qui sont pas très très bons. Que Kanté, qui est quand même en demi-retraite en Arabie Saoudite, s'était élu le meilleur joueur du match. Excusez-moi.
Mais ça en dit long.
On est d'accord. Toi et moi, on a quand même vu 2-3 matchs dans notre vie. Ça en dit long. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé Griezmann, qui est mon joueur préféré de cette équipe, pas très en forme. Non, c'est pas.
Ah, c'est après,
pas
c'est un premier match.
Oui,
on est rarement très bon.
Au niveau du style. Avec des gens, c'est quand même pas très excitant.
On va monter un peu en puissance, sinon on ne peut pas baisser. Apolline Matin, ce matin sur RMC, êtes-vous un adepte de la précrastination? On parle souvent de la procrastination, qui signifie remettre à plus tard les tâches que l'on pourrait effectuer tout de suite, mais certaines personnes sont tout l'inverse et se précipitent pour faire des corvées pénibles. Les explications tout de suite avec Charles Meunier.
Certaines personnes remplissent ces tâches dès l'instant où elles le peuvent, quitte à dépenser énormément d'énergie. Les experts prennent un exemple, celui du passager qui va se présenter très en avance à l'aéroport et puis se mettre debout devant la porte d'embarquement une demi-heure avant
le voit toujours.
Avec son lourd bagage sur le dos, alors qu'a priori tout le monde va atterrir même temps. En fait, certains prennent énormément de plaisir à rayer une corvée sur la liste
choses
à faire.
Ça, oui.
Voilà ce que dit l'un des experts qui invite non pas à procrastiner, mais à lister les tâches par ordre de priorité, car oui, certaines choses peuvent attendre un peu, mais pas trop quand même.
J'aime ces gens, car j'en fais partie.
Mon Dieu.
Thierry Moreau, qu'est-ce qu'il y a?
Moi, je suis l'exact contraire. Je travaille aussi bien que sous la pression et au dernier moment. Et surtout, ce qui m'énerve beaucoup, c'est dans les voyages, quand vous êtes dans un avion, ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'avion, et que un quart d'heure avant l'atterrissage, il y a déjà les gens dans le couloir avec leurs bagages, prêts à partir.
C'est dangereux.
Je trouve ça ridicule.
Ah, mais c'est moi. cul. Mais je passe dans le train.
Vous ne sortez pas.
Parce que
pas
je veux sortir en premier, je m'en fous. Je veux sortir en premier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'air.
Non mais à ce moment-là, il faut un divan pour vous.
Non mais c'est pas dans l'avion, je me mets toujours. J'adore être aux places un peu devant. Tu sais. Mais t'es en écho, mais je prends toujours mon billet.
La limite de business là, c'est avec le petit.
Non, pas du tout. Mais non, quand
t'es en écho. Non, mais en écho. La première place en écho.
Non mais si t'as un voyage de 2 heures, t'as pas d'écho, t'as pas de business, t'es en écho. Et mais je prends un malin pire, je vais être dans les places de devant, je mets tout de suite mes affaires.
C'est ton esprit compétiteur.
Tes affaires à côté de moi. Je veux dire dans la petite soute et je veux sortir en premier.
C'est ton esprit de compétiteur. Tu veux toujours être la première.
Bien sûr.
Mais on va pas payer en avant les factures tout de suite. Par exemple des artisans, c'est une très mauvaise idée. On se fait avoir quelques fois. Oui, mais on se fait avoir quelques fois.
Ah ben je me suis fait avoir. Mais je suis très content. Ben non, mais attends. Excuse-moi, je vais.
Vous êtes contente.
Je vais pas m'excuser de payer les gens à l'heure. Enfin, écoute, et de payer les gens en temps et en heure. Je ne supporte pas les gens qui ne payent pas leurs factures en temps et en heure. Et tu sais qui payent au dernier moment, ça me met un frisson d'angoisse. Je vous jure, les gens qui payent leurs impôts au dernier moment, je ne comprends pas ces gens.
Ma déclaration là le dernier jour.
Mais ça m'étonne pas.
La valide le dernier.
Ah, et avant les gens ils allaient au bureau de poste du Louvre. Tu sais parce que c'est la seule
fête
de la nuit.
Bien sûr.
Mon Dieu, mais quel enfer. Anne-Sophie, comment vous êtes vous?
Alors moi, par exemple, sur les trains, je suis complètement dans la procrastination et c'est hyper drôle parce que il y a pas longtemps, il y a eu un malentendu. Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance pour prendre mon train et j'ai découvert cet univers de gens qui est assis dans le train bien avant qu'ils partent, alors que moi, normalement, je cours sur le quai pour l'avoir à la dernière minute. Et je me suis dit, leur vie est quand même très très paisible. Ils n'ont pas cette espèce de tension à l'arrivée du métro. Bon, on ne sait pas si on va l'avoir ou pas et tout. Et effectivement, il y a deux mondes qui se côtoient. Il y a les mondes de la précrastination et de la procrastination. Moi, pour les trains, je suis plutôt dans la procrastination. Par contre, pour payer, ça me stresse d'avoir des trucs à payer, donc généralement, je le fais tout de suite, quoi.
Mais le train, tu n'imagines pas la joie. Tu sais, tu te mets tellement en mouvement. Et là, tu mets tes petits magazines, ton petit café, tes Haribo, ton téléphone que tu charges, et tout est hyper bien
organisé. Juste avant
que le train démarre, là, tu vois quelqu'un qui arrive en courant.
C'est moi. J'ai plus envie,
c'est que les portes se ferment.
Et là, t'as un petit sourire.
Bien sûr, je dis, ben voilà.
Moi, je pense à tout ce que je pouvais faire pendant ces 10 minutes, aller acheter un journal, aller acheter un sandwich.
Je suis arrivée 30 minutes avant.
Je crois quand même que c'est une question d'âge.
Pourquoi?
Parce qu'avant, moi, j'étais du genre à arriver en sueur avec la valise. Maintenant, je suis un vieux garçon, ça c'est clair. Et maintenant, j'ai plus de 50 ans. Je déteste stresser. Donc, je me lève une demi-heure à l'avance pour être sûr de ne pas stresser. Mmh. Et puis, les impôts maintenant, alors surtout que maintenant que ça arrive au niveau électronique. Oui. Mais moi, je regarde, mais des 2 jours avant. Puis, dès que ça arrive, paf, je le fais tout de suite.
Bien sûr.
Comme ça. Ouais. Parce que je me suis fait des coups de stress déclarer la veille et de se rendre compte qu'il fallait un serfa, je sais pas quoi, pour un petit truc que t'avais payé, etc.
Nous, on est des gens paisibles, on fait attention.
Mais non, mais j'ai changé, Estelle. Je ne suis plus le même.
C'est bien, Frédéric.
Mais nous, ça fait tellement d'anecdotes à raconter sur comment on a eu un train envers et contre
comment
tout.
Comment t'as eu 5% d'impôts à payer?
Excusez-moi, ça me permet de parler des choses essentielles.
Les impôts, je paye. Ça me stresse.
Ça me permet de parler des choses essentielles. C'est-à-dire, parce que tout le monde sait que je vais arriver à l'heure. RMC s'engage avec vous, c'est dans un instant, avec Amélie Rosy qui a enquêté sur un dépôt illégal de ballast dans une forêt du Gard, sombre à la mer. À tout de suite sur RMC.